Eh bien, bonjour. Ah, je suis très content d'être ici et j'aimerais vraiment, premièrement, vous féliciter pour 8 heures du matin, être assis, prêt à étudier la parole de Dieu un samedi matin. Là, chapeau, c'est assez rare, hein, je vous dis. Et deuxièmement, je me crois vraiment en Suisse parce qu'on commence à l'heure. Et pour le sud de la France, on dit que c'est quasiment miraculeux, d'accord? Donc, franchement, là, moi, j'aimerais vous féliciter. Je suis assez impressionné, je vous le dis franchement. Et je suis très, très content de pouvoir être ici avec vous. Merci à Julien et Luciano pour l'invitation. Pour la petite histoire, donc Alban dont il a parlé, il était donc à Genève dans notre église et un jour il est tombé follement amoureux d'une très très belle jeune fille qu'il avait rencontrée parce qu'il cherchait un appartement. Problème, elle n'était pas chrétienne. Alors longue histoire courte, il l'a invitée à la maison, elle s'est convertie dans notre salon, Lucie, et donc aujourd'hui, oui, apparemment il y a un bruit. Ah, il faut écarter le bout. Là? Ça va mieux là? Comme ça, c'est bon? Plus? C'est que je parle fort, c'est ça le problème. Hein? Comme ça là, ça va? Ça, visuellement, c'est un peu drôle ou ça va? D'accord. D'accord. Donc en fait, alors, ça continue, hein? C'est encore pareil. Ça va, comme ça? Donc en fait, Lucie s'est convertie et ils se sont mariés et maintenant ils sont à Abu Dhabi, d'accord? Mais vraiment une très belle histoire. Alors écoutez, aujourd'hui on m'a demandé de, enfin tout ce week-end, de vous présenter un sujet, la fiabilité de la Bible. Donc ça c'est vraiment le sujet de base, le thème de base. Et ça c'est vraiment, je dirais, le message que je vais donner ce soir. Apparemment c'est une session ouverte aussi à des non-chrétiens qui vont venir d'un peu partout. Et donc, on va vraiment regarder ça. Mais dans la discussion avec Julien, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait un petit peu agrandir ça? Et alors, voici l'idée que j'ai eue. Alors, moi, je suis à Genève, et je vous raconterai mon histoire, bien sûr. Et à Genève, il y a quand même un personnage qui s'appelle Jean Calvin. Et Jean Calvin, ben, Jean Calvin, il a quand même eu un impact incroyable, non seulement sur Genève, mais sur le monde entier. Et bien sûr, tout basé sur la parole de Dieu. Et donc, ce que je suggère faire, c'est, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait prendre la fiabilité de la Bible, mais ensuite montrer comment la Bible, au travers de la réforme, et avec un impact aujourd'hui, a transformé le monde. Il a dit, ouais, trop bien. Alors voilà ce qu'on va faire. D'accord? On va vraiment, donc, premièrement, ce matin, simplement pour mettre le contexte, on va faire la vie et l'époque de Jean Calvin. Donc, vous allez voir un visuel de sa vie, Genève, etc., etc. Ça, c'est sympa. Deuxième session ce matin, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que la réforme a changé le monde? Voici le titre de mon message. Les montres suisses, les 10 commandements et l'éthique protestante du travail. D'accord? Alors, si déjà vous dites, wow, lundi matin, j'ai vraiment pas envie d'aller au travail, après ce message, vous allez peut-être tout disparaître tellement vous allez vouloir aller travailler lundi matin. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le but qu'on va voir. Ensuite, troisième session ce matin, je pense, après la pause, l'éducation, la démocratie et d'autres manières étonnantes que la réforme a changé le monde. Et de nouveau, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment la parole de Dieu, la Bible, a vraiment été utilisée par les réformateurs pour transformer le monde. Ce soir, ensuite, enfin, cet après-midi, il y aura les lycéens. Et là, je vais donner un message qui s'appelle le iota de Dieu. Le iota de Dieu. Le iota, c'est la plus petite lettre dans la langue hébreu, et on voit ben, Jésus même dans Matthieu 5 et dans d'autres passages, vraiment il est très pointu sur la petite lettre et comme quoi même les petites lettres, même le iota est inspiré de Dieu. D'accord? Et finalement ce soir, la Bible est-elle fiable? Là on va simplement vous montrer plusieurs raisons sur comment argumenter la fiabilité de la Bible, comme quoi elle est vraiment inspirée de Dieu. Et ensuite demain matin, pour le culte, eh bien, il m'a suggéré, enfin, je lui ai suggéré, mais on était d'accord, de dire, voilà, comment est-ce que la parole de Dieu, comment est-ce que la Bible peut changer une vie? Juste une vie. Et en fait, cette vie, bah, c'est la mienne. Je vais raconter mon histoire. Et ensuite, je vais faire un exposé de Acte 8, la conversion de l'eunuque éthiopien. Et j'ai intitulé ce message, un verset, 5 minutes et un petit peu de courage. D'accord? Donc ça, ce sera demain matin. Alors, ça vous donne une sorte d'idée de où on va. J'espère que ça convient à tout le monde. Si ça convient pas, c'est un problème. C'est ce que je vais faire, d'accord? Donc voilà, on va commencer comme ça. Alors, moi, je propose qu'on prie et ensuite on attaque. Seigneur, merci de tout cœur pour chacune des personnes qui est ici ce matin. Et je remercie aussi pour ces cours qui sont dispensés une fois par mois dans cette église. Et Seigneur, et le sujet de ce week-end, moi je te prie vraiment que ceci enflamme nos cœurs en regardant à l'histoire, mais comment la parole de Dieu n'a pas changé, et comment elle change le monde, Seigneur, qu'on puisse nous-mêmes être enflammés et qu'on puisse voir que c'est pas simplement un devoir de lire la Bible, mais que cette parole transforme des vies, des villes, des pays, des continents, carrément le monde, Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je te prie, de nous encourager et de nous permettre de vraiment être attentifs maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tac, j'enlève ma montre juste pour me rappeler à quelle heure il faut arrêter. Voilà, mais écoutez, on va commencer alors avec un panorama assez rapide de la vie et de l'époque de Jean Calvin, et je pense que ça va vous aider un petit peu à mieux situer tous les autres sujets qu'on va voir. Donc beaucoup de gens pensent que c'est Jean Calvin qui a apporté l'évangile et la réforme à Genève, mais en fait la réforme a été amenée à Genève bien avant l'arrivée de Jean Calvin par des hommes qui ont prêché la vérité de l'évangile à un coût très élevé. L'effet a cumulé le 21 mai 1536 sous Genève, littéralement tous les gens qui étaient éligibles ont voté la réforme pour l'adopter à Genève. Et c'était deux mois plus tard, en juillet 1536, que Jean Calvin, qui était à passage à Genève, était convaincu par Guillaume Farel de rester et mener la réforme à Genève. Calvin restait et il a littéralement, en 25 ans, transformé le monde. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors voilà. Est-ce qu'il a fallu peut-être mettre... Donc, avant la réforme, donc ça c'est Genève. C'est Genève au moyen. Qui est déjà allé à Genève? Ah, vous êtes tous des connaisseurs. Alors, welcome home, d'accord? C'est très très bien. Donc, avant la réforme, Genève était une petite ville sur une colline contenant de nombreuses églises catholiques romaines, des chapelles et des couvents. De nombreux commerçants venaient à Genève vendre et acheter leurs biens. Et donc, c'était vraiment une ville très internationale qui est vraiment plantée au plein centre de la France, du moins sur la côte est de la France, comme vous le savez. Et les gens venaient de Venise, du Piédmont, de l'Empire germanique pour amener leurs biens. Donc, quatre fois par année, il y avait des grandes foires à Genève. Mais Genève était aussi une ville avec une menace grandissante. C'était le duc de Savoie, donc posé à Chambéry ou carrément à Annecy. Je ne sais pas si vous connaissez Annecy, c'est quand même sympa aussi. Hein. Et... lui voulait devenir le seigneur de Genève et prendre la ville, mais Genève, gouvernée par son évêque et sa bourgeoisie, résiste aux menaces du duc de Savoie, et Genève est donc restée indépendante. Alors, ce qu'on voit ici, bien sûr, c'est les Alpes à droite. Le lac Léman, c'est le plus grand lac d'Europe. Et ensuite, à gauche, on a le Jura. Et vous voyez que c'est une petite ville avec un mur. Il n'y a plus le mur aujourd'hui, sauf que cette portion du mur existe encore, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des réformateurs. D'accord? Ça, je vous en parlerai aussi. Et alors, la cathédrale Saint-Pierre, c'est la grande cathédrale qui existe encore aujourd'hui. Regardez toutes les églises, c'était hyper catholique. Environ 10 000 habitants, dont 10% étaient clergés. L'église catholique était en état déplorable. En 1527, il y avait environ 700 moines à Genève. Beaucoup étaient illettrés, inexpérimentés, ignorants et corrompus, ils étaient nombreux à vivre en concubinage. En même temps, il y avait ce mouvement, la Renaissance, qui déferlait sur l'Europe et qui a créé un regain d'intérêt pour la lecture et la littérature antique. Alors voilà, donc ils voulaient maintenant redécouvrir les auteurs anciens dans les langues originales, qui à son tour a conduit à un intérêt de la lecture de la Bible et des pères de l'Église, aidé en plus par la presse de Gutenberg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens ont commencé à pouvoir lire la Bible, en premier en latin, mais les gens ne parlaient pas toujours très très bien latin, mais surtout quand elle a commencé à être traduite dans leur langue, bien, en la lisant, ils ont commencé à remarquer. C'est ça pourquoi l'Église catholique a tellement détesté la Bible. C'est parce qu'en prenant une Bible, je pouvais maintenant la prendre. Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Oh là 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 là. J'ai touché le bouton et quelque chose s'est passé. Et voilà, ben c'est revenu, c'est génial. Alors, en ayant la Bible, les gens pouvaient maintenant lire la Bible et comparer pour eux-mêmes ce que la Bible disait par rapport à ce que l'Église enseignait. Et ça, c'était le gros danger, parce que l'Église ben, ne pouvait pas ne pas conclure que peut-être il y avait un petit couac, un petit problème. Alors voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi la Bible était une menace pour eux. Et ça, c'était à cause, bien sûr, de la Renaissance. Et alors, les catholiques s'interrogeaient par rapport à la légitimité de l'Église dans son état déplorable, et ils commençaient à vous réaliser, waouh, Jésus-Christ et la grâce, le salut par la grâce, quelque chose qu'ils n'avaient pas, eux, appris dans l'Église. Donc, une des doctrines catholiques en particulier, ça c'est la clé pour comprendre la réforme, qui devint contestée plus que tout autre, c'est la doctrine des indulgences. Des indulgences. Les indulgences, c'était des certificats. En voilà, alors il y avait beaucoup de types d'indulgences, mais en voici une. C'était des certificats vendus par l'Église catholique comme gage de réduction de temps au purgatoire. Donc, en fait, ils pensaient, l'Église catholique, encore la doctrine du purgatoire aujourd'hui, pense que quand on meurt, on ne va pas directement au ciel ou en enfer, mais qu'on va dans un endroit qui s'appelle le purgatoire, et là, on purge sa peine jusqu'à qu'on puisse aller au ciel. Et si on, enfin, voilà, ça c'est le, mais il y a des manières de raccourcir son temps au purgatoire. Donc, et ça, c'est par les indulgences. Alors, à l'époque, la question fondamentale, ou une des questions fondamentales, c'est celle-ci. Comment un homme peut-il être pardonné de ses péchés et ainsi aller au ciel? Il faut se dire qu'à l'époque, la mort se voyait tous les jours. Il y avait des plaies, il y avait la peste, il y avait la guerre. Les enfants mouraient très jeunes. Donc, c'était pas quelque chose qu'on voyait à la télé ou aux jeux vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voyait tous les jours. Moi, j'ai fait pas mal d'enterrements, ça fait 40 ans que je suis pasteur. Quand je vois un enterrement, systématiquement, je vois un corps et je me dis, où est la personne? Tout le monde se pose cette question. Où est la personne? Eh bien, à l'époque, c'est ce que tout le monde se posait comme question. D'accord? Et alors, justement, là, c'est une autre forme. Il y a des indulgences beaucoup moins élaborées. Mais l'Église catholique, il y avait un gars qui s'appelait un moine, qui s'appelait Johann Tetzel, en Allemagne. D'accord? Et Johann Tetzel est le pape. Ils ont décidé de remettre en avant, le côté des indulgences. Et alors, lui se promenait en Allemagne et il vendait des indulgences. Et là, ouais, très bien, l'indulgence, là, le coffre dans lequel on mettait l'argent. D'accord? Donc, les gens pouvaient littéralement acheter une indulgence pour raccourcir leur temps au purgatoire. Et alors, il avait un dicton assez sympa, on se comprend, qui était catchy, comme on dit en anglais. Aussitôt que sonne votre obol, du feu brûlant, l'âme s'envole. D'accord, c'est pas mal. Alors, moi, je parle pas du tout l'allemand. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent l'allemand ici. Mais je vous le dis quand même parce que ça rime. Sebald der Pfennig im Kasten klingt, dies er aus dem Finger springt. Vous voyez comme ça rime? Alors, pour les gens illettrés, bah, ça passe. Ça passe vraiment bien. On se dit, waouh, si je mets de l'argent, eh bien, je vais pouvoir sortir plus rapidement. Alors, les gens disent, ouais, ça, c'est un truc du Moyen-Âge. Bah, pas trop. Bah oui, alors ça, déjà, en 1825, dans le musée de la Réforme à Genève, il y avait une indulgence de 1825, d'accord, on la voit ici. Alors, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus belle. Et regardez, ça c'est en anglais, mais c'est vraiment intéressant. Vatican offers time, je vais lire en français. Le Vatican offre du temps en moins au purgatoire à ceux qui suivent le pape François, ses tweets, au jour des jeunes à Rio. Donc, en 2013, il y avait une journée spéciale à Rio de Janeiro pour les jeunes. Et apparemment, si on pouvait pas y aller, mais on le suivait avec les réseaux sociaux, on pouvait avoir un temps en moins au purgatoire. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait actuel. Et alors, il y a un autre moine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme, c'était une bataille entre les catholiques, en fait. Hein. C'est certains catholiques qui ont réagi à ce que l'Église catholique faisait. Les protestants n'étaient pas encore nés. C'est, en fait, c'est là qu'ils vont naître. Donc, Martin Luther, c'était un autre moine. Lui, il habitait aussi à Wittenberg, dans le nord de l'Allemagne. Et alors, Luther, lui, il voit tout ce qui se passe, et un jour, ben, il est en train d'étudier la Bible. Et il est prof. Il est en train d'étudier le livre des Romains. Et alors, il se pose la question, que dit la Bible? Écoutez, c'est la question de toutes les questions. C'est la question que nous devrions nous poser systématiquement quand on a un problème, quand il y a une colle, quand il y a un truc qu'on ne comprend pas. Que dit la Bible? Alors, c'est ce qu'il fait. Alors, il tombe sur Romains 1:17. En lui, donc l'évangile, et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors il se dit, mais t'as voir, là il y a un truc que je comprends pas. Si la Bible dit que le juste vivra, donc juste vivra éternellement, d'accord, entre guillemets, par la foi, si c'est par la foi, comment je peux aller au ciel en achetant un billet? Ça paraît pas cohérent le truc. Alors c'est ce qui s'est posé comme question. Et ensuite, il est tombé sur Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et donc là, il s'est dit, mais ça va, je comprends pas. La grâce, ça veut dire que c'est un don. C'est ce qu'il dit. La grâce, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, Jésus-Christ, Dieu a donné Jésus-Christ son Fils qui est sans péché. Il a pris sur lui nos péchés, il est mort, il est ressuscité 3 jours plus tard, donc il a vaincu la mort et donc le péché. Et la grâce, c'est un don gratuit. Il a fait ça gratuitement pour nous. Et ça, on le reçoit comment? Le verset le dit, par la foi. Et au cas où on n'a pas compris, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ah! L'ampoule qui s'allume, il se dit, mais c'est dingue, quoi! C'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Je ne peux rien faire, zéro faire, pour acquérir quelque chose qui m'est donné comme un don. Je sais pas. Si je décide de vous donner ma montre, que j'ai pas ici, qui est là, et je vous dis, tiens, je vous donne ma montre. Mais avant de vous la donner, est-ce que vous pouvez aller chez moi remplir le frigo de nourriture et me faire 18 000 repas? Et ensuite, je vous donne ma montre. Vous allez vous dire, mais c'est pas un don. Ben non, un don, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais je vous la donne pas, d'accord? Je vous la donne pas. Et ensuite, alors, il tombe sur le verset, ouais, c'est le verset de ma conversion. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, du coup, ting, il réalise, mais attends voir, c'est simplement la foi. La foi. Et alors, conclusion de Luther, l'homme n'est pas sauvé par l'achat d'indulgence, mais par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est aussi simple que ça. On se repent de son péché et on demande à Jésus-Christ de nous pardonner et de nous accorder la vie éternelle. Alors, il était tellement content de ses découvertes que Martin Luther décide d'écrire un document. Ça s'appelle à Genève, on les appelait 95 thèses, c'est 95 thèses. Et ces 95 thèses que beaucoup de gens n'ont pas lues, c'est en fait 95 raisons, elles sont très très connues, hein, 95 raisons pour lesquelles les indulgences ne marchent pas. Donc c'est vraiment dédié aux indulgences, d'accord? Alors je vous donne quelques-unes juste pour que vous compreniez. Numéro 25, il prêche des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole au purgatoire. C'est auto-explicatif. C'est vraiment du n'importe quoi, c'est mon interprétation, d'accord? C'est des inventions humaines. Numéro 36. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans l'être d'indulgence. Donc là, il est en train de dire, la clé, c'est la repentance. On se repent de son péché, on se détourne de ce péché, on dit Jésus-Christ, viens me pardonner, et clac! Là, on est sauvé, il n'y a pas besoin de l'être d'indulgence. 67. Les indulgences dont les prédicateurs vantent, exaltent les mérites, ont le très grand mérite de rapporter de l'argent. Alors, je sais pas si vous êtes allé à Rome. Si vous allez à Rome, il y a la basilique Saint-Pierre, la grande. Elle a été construite par l'argent gagné des indulgences. Donc ça, c'est un fait historique. Vous pouvez aller voir ça sur ChatGPT ou Google, ce que vous voulez. Tout est là, d'accord? C'est vraiment intéressant. Et alors, Martin Luther est tellement content de ses 95 thèses qu'il les cloue sur la porte de l'église de universitaire de Wittenberg, pensant que le pape le remercierait. Ah, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, d'accord? Il est devenu ennemi public numéro 1, d'accord? Parce que là, il est en train de bouleverser l'église catholique. Et voilà le problème. Quand on lit la Bible, on découvre la vérité et on peut tout à fait, plus simplement, découvrir l'erreur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a lu la Bible et tout d'un coup, il se dit « Waouh, t'as voir l'église dans laquelle j'ai passé pas mal de ma vie, bah, peut-être il y a des erreurs sur le point du salut, bien sûr. » Alors, non seulement il a cloué ses 95 thèses, mais la presse Gutenberg avait été inventée 60 ans avant. Et alors là, ça, c'était comme l'Internet à l'époque. L'invention de la presse a quand même bouleversé le monde. Et alors, tac, ils ont commencé à non seulement des 95 thèses, mais des portions de la parole de Dieu en latin, en français, toutes les langues. Et alors, Genève, comme je l'expliquais tout à l'heure, était déjà un centre commercial d'Europe à cause de sa géographie. Et donc, ces luthériens sont venus à Genève pour vendre leurs biens, avec les Italiens et les autres, mais tout le monde se donnait rendez-vous à Genève pour vendre leurs biens quelques fois par année. Mais les luthériens, luthériens, parce que c'était la doctrine, si vous voulez, de Luther, luthériens bibliques, ils ont mis carrément sur leur dos des sacs pleins de, ben voilà, de 95 thèses, de littérature, des traités, portions de la parole de Dieu. Et ils montaient et descendaient les rues de Genève et ils frappaient aux portes. Oui, bonjour, on est là, on aimerait vous offrir une étude biblique. Et moi, ce que je trouve génial ici, c'est que l'évangile est arrivé à Genève à cause de commerçants, des gens normaux, des gens comme vous et moi, des gens qui avaient leur travail, mais qui aimaient le Seigneur et qui, en même temps, sont venus frapper à des portes, annoncer l'évangile aux gens autour d'eux dans la ville de Genève. Et c'est ça, pour moi, qui est génial. Alors, où j'en suis là dans mes notes. Oui, donc alors, ce qui est intéressant, c'est que puisque, comme j'ai dit, ces nouvelles idées sont venues à Genève à cause de ces foires, ce qui est remarquable, c'est que il n'y a pas que Genève hein, qui a été influencée par ces nouvelles idées, mais d'autres villes. Et ce qui est remarquable à comprendre, c'est que à l'époque, les protestants ou les luthériens venaient dans une ville catholique ou un village catholique et ils avaient ce qu'on appelle des disputations. C'était un débat. Alors, d'un côté les protestants, de l'autre côté les catholiques. Puis ensuite, le truc qui est le plus dingue, c'est qu'ils votaient. Et ils disaient, alors est-ce qu'on reste catholique ou est-ce qu'on passe à la réforme? Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, pas mal de villes ont capitulé à la réforme de cette manière. Elle était religieuse, mais bien sûr un peu politique. Et en 1522, par exemple, Zwingli, prêtre catholique converti à Christ, a convaincu Zurich à adopter la réforme. Donc Zurich, tac, devient réformé. Berne, la capitale suisse aujourd'hui, a adopté la réforme en 1528. Bâle adopte la réforme en 1529. Et Genève, par contre, était un petit peu plus compliquée. D'accord ? Elle se sentait abandonnée par son clergé, menacée par la Savoie. Elle décide... Oui, peu à peu de se tourner vers les nouvelles villes réformées, de former des alliances politico-religieuses. Et là, le pape commence à réagir. Le pape Clément VII, 1529, dit au duc de Savoie, et je cite, « Genève a été luthérianisée trop rapidement et cela devrait stopper. Le syndic catholique de Genève, le gouvernement, a alors décidé d'interdire toute prédication à Genève, donc c'était interdit de prêcher dans la rue ou n'importe où l'autre, et par les prédicateurs étrangers protestants. Alors quand ils disent étrangers, c'est souvent des Français. C'est ça qui est génial. Vous savez, la France, aujourd'hui, les gens disent que d'une manière évangélique, c'est plutôt pauvre. À l'époque, c'est les Français qui amenaient l'évangile partout, quoi. C'est les Français qui ont amené l'évangile à Genève. C'est vraiment un truc dingue à voir, à comprendre. Et donc, malgré ces contraintes, les études bibliques ont continué. Alors, il y a des tensions qui ont grandi à Genève. Plus la réforme venait, plus il y avait des difficultés. En 1532, Claude Pigottier, le directeur des écoles genevoises, à l'époque, s'est converti à Christ et a ordonné d'arrêter la lecture de l'évangile en classe. Donc lui, il s'est converti, il commençait à transmettre l'évangile, interdiction de lire la Bible en classe. C'est ce qu'on lui a dit de faire. Alors ça, c'est un moment important, les placards, le 9 juin de la même année, 1532, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire des placards, c'est une affiche qui a été écrite. Ben voilà, une partie de l'affiche, il y en a une dans le musée de la Réforme à Genève, où un protestant dénonce l'Église catholique, la messe, les indulgences. De manière assez... Hein. Et en France, François Ier, le roi, lui, il était plutôt ouvert aux protestants, sa sœur était protestante, jusqu'au jour où il a trouvé un de ses placards cloué sur la porte de sa chambre dans son château. Là, il a trouvé, il s'est dit, waouh, les protestants sont maintenant dans mon entourage le plus proche. Et c'est là où il a basculé, il a commencé à persécuter les protestants. Et à Genève, une affiche a été clouée sur la porte de la cathédrale Saint-Pierre, notre grande cathédrale, qui critiquait ouvertement ses ventes d'indulgence pour le pardon des péchés. Et là, il y a une sorte de bagarre qui éclate dans la cour de la cathédrale Saint-Pierre. Un catholique est blessé. Donc là, il commence maintenant à avoir de la violence. Un peu compliqué. Encore un Français, Guillaume Farel. Peut-être vous connaissez ce nom. Alors, Guillaume Farel, c'est un de mes héros, ce gars, il est vraiment génial. Alors, ce qui est intéressant avec Guillaume Farel, un évangélique, zéro tact. Zéro. Mais alors, hyper efficace. D'accord? Mais alors, zéro, zéro tact. En octobre 1532, Guillaume Farel, un prédicateur, un évangéliste français puissant, vient à Genève. Alors, comme j'avais dit, à l'époque, on allait à des villages. Il y avait des débats, on votait. Farel avait été déjà à Séville, ils ont fait des débats ou des disputations et il les a gagnés à la réforme. Aigle, Neuchâtel, Orbe, Grandson, Payerne. Très efficace. Des villes entières, clac, comme ça, à la réforme. Et son objectif était clair, il voulait gagner Genève pour Christ. Mais le problème, il se faisait systématiquement expulser. Alors, il s'est dit, ben, c'est peut-être pas moi la clé dans tout ça. Il avait un ami qui s'appelait Antoine Froment, un autre Français du Dauphiné. Il était actuellement pasteur à Yvenand en Suisse, mais il était aussi prof de français. Et alors, ayant été expulsé de Genève, Farel dit à Froment, « Froment, je crois que tu es la clé pour Genève. Tu es la clé pour Genève. » Il a dit, viens à Genève, annonce que tu vas donner des cours de français et utilise la Bible comme texte. Donc c'est ce qu'il fait. Et voici son affiche, je cite. Un homme est arrivé à Genève qui en espace d'un mois, je sais pas son truc, va enseigner à qui que ce soit, grand, petit, homme ou femme, à lire et à écrire le français en un mois. Wow, je crois qu'il est mieux que Duolingo. Je sais pas si vous connaissez Duolingo, d'accord. Franchement, là, vraiment, au ciel, j'ai vraiment lui posé des questions. Comment il a fait? Mais la classe, bien sûr, est devenue immense. Et ils étaient particulièrement passionnés par la manière que Froment enseignait la Bible. Et ça, alors, c'est la... j'ai oublié de vous dire. J'ai écrit un livre là-dessus, d'accord? Ça s'appelle « La Genève » de Jean Calvin. Et ça, c'est la couverture, en fait. C'est Froment devant Genève, à Place Mollard à Genève, d'accord? Ça, je vous en parlerai peut-être, je vous en parle tout à l'heure si vous voulez. En fait, vous n'avez pas besoin de le lire parce que je vous raconte le livre là, d'accord? Donc, mais si vous voulez, j'en ai des copies, si vous voulez, d'accord? Alors ça, c'est quand même pas mal parce que, alors Calvin dit, Froment, tu devrais venir à Genève. Alors Froment, il va à Genève. Et ce jour-là, 1533, le 1er janvier, les étudiants, ils disent, écoute, le français, ça nous intéresse plus. Nous, on veut t'entendre prêcher. Donc ils le descendent là au Mollard. Alors aujourd'hui, au Mollard, il y a quoi? Alors, cette tour existe encore. Juste derrière, il y a le lac. Là, il y a un grand magasin qui s'appelle le Globus. Alors, ramenez beaucoup d'argent, c'est vachement cher, d'accord? Globus. Et là, il y a une chocolaterie aujourd'hui qui s'appelle la chocolaterie Rohr. R-O-H-R. Super bon, d'accord? Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Froment a prêché devant Rohr et Globus, mais il y a 500 ans en arrière. Et alors, il a prêché. Et c'était un jour de marché comble. Les historiens nous disent qu'avant de prêcher, Froment est descendu de la table, il s'est mis à genoux, il a pleuré, puis il est remonté sur la table, il a commencé à prêcher son texte Matthieu 7, 15. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il tourne autour du pot à l'époque. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Chlac! D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, des fois, oui, on veut pas trop offenser les gens, vous savez, là, genre, ils vont directement dessus. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous l'avez compris. Il dénonçait ouvertement le système religieux catholique. Et bien sûr, la plupart des gens, ils disent, ont écouté à genoux. Donc, avec un immense respect pour la prédication et la parole de Dieu. Peut-être vous devriez essayer ça demain matin, mais je pense pas que ça va jouer, d'accord? Alors, Genève est en train de basculer de plus en plus dans la réforme. La première célébration de la Sainte-Cène à Genève en 1533. Et, ce qui est intéressant, ça, c'est l'écusson. Donc, il y a un incident. Parce qu'en fait, le fait qu'il y avait un culte et la Sainte-Cène a été donnée par les protestants, l'Église catholique a toujours dit que Ben, la communion, c'est très catholique comme truc, et on va pas accepter ni un baptême ni une communion par quelqu'un d'autre. Donc ça crée un problème. Ça plonge la ville au bord d'une guerre civile. Les protestants ont demandé l'aide de Berne. Alors Berne, protestant, d'accord? Et les catholiques, eux, ont demandé de l'aide à Fribourg, donc un autre endroit en Suisse. Donc ça, c'est Neuchâtel, c'était Fribourg. Non, pourquoi j'ai mis Neuchâtel? Ça aurait dû être Fribourg, d'accord? Une ville catholique pour aider à défendre leur cause. Et donc finalement, Berne envoie un ambassadeur. Berne exige que le conseil de la ville de Genève autorise les pasteurs protestants de prêcher librement à Genève. Imaginez qu'une autre ville, je sais pas, je dis n'importe quoi, que la ville de Marseille envoie son maire pour dire aux Toulonnais, vous devez autoriser la prédication de la parole de Dieu. Ce serait pas mal, ça, non? Ben, c'est ce qui s'est passé. Non, mais c'était un autre monde. C'était vraiment un autre monde. Et tout ça, ça a mené au premier culte protestant. Alors ça, c'est sur le mur des réformateurs. Et le premier culte protestant juridique officiel a eu à Genève. À partir de ce jour, l'évangile est prêché de manière libre à Genève. Alors intéressant, des conversions publiques. Le jour de la Pentecôte 1534, Farel prêche à la cathédrale. Et là, il y a un gars, enfin un prêtre, qui s'appelle Louis Bernard. Imaginez. Église comble. Farel prêche. De la parole de Dieu, il prêche l'évangile. Tout d'un coup, un prêtre se lève, ses robes, non, plutôt ça, comment on appelle la cou, la quoi? La soutane, voilà, sa soutane, qui servait dans la cathédrale, il s'avance, va vers la chaire, enlève sa soutane et annonce que dès lors, il renonçait à sa foi catholique et il va aller se rallier à la cause évangélique, publiquement. Paf! Imaginez le choc, imaginez l'effet. Alors, tout le monde n'était pas content. Vous dites, John, là, tu t'es trompé d'image. Pourquoi est-ce que tu as une image d'une soupe aux épinards? C'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez le lien entre la soupe aux épinards et la réforme. Ben, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Tout le monde n'était pas content avec ce qui se passait à Genève. Et le 6 mars 1535, dans un restaurant, une serveuse qui s'appelle Antonio Vax, qui était fanatique catholique, c'est comme ça qu'on la décrivait, elle a essayé d'assassiner Farel, Fuiret et Froment, les réformateurs, en ajoutant, tenez-vous bien, du poison à leur soupe. Et c'est pas n'importe quelle soupe, une soupe épaisse aux épinards. Alors, lorsqu'ils se sont assis pour manger, Farel a regardé sa soupe, il a dit qu'il aurait préféré une soupe moins épaisse. Des fois, être difficile paye. Donc, il a demandé une autre soupe. Froment, lui, était sur le point de prendre sa première cuillerée de soupe lorsque quelqu'un est arrivé en courant dans l'auberge pour lui dire, écoute, ta femme et tes enfants viennent d'arriver à Genève. Il se lève et il sort. Seul Viret a mangé une partie de la soupe, il est devenu très malade, mais il n'est pas décédé. Antonio Vax avait apparemment, alors si vous avez eu une fois l'idée d'empoisonner quelqu'un par une soupe, il faut comprendre le problème ici. Antonio Vax avait apparemment mis trop de poison dans la soupe. Donc si vous voulez empoisonner quelqu'un, mettez pas trop de poison. D'accord? Il faut mettre juste la bonne quantité. D'accord? Et Viret a vomi sa soupe. Alléluia, d'accord. Non, ouais, ben, des fois, excusez-moi, je suis pas en train, mais ça peut faire du bien des fois de vomir, surtout quand on est empoisonné. Alors bien sûr, elle a essayé de fuir Genève en bateau, mais a été rattrapée. Dans sa confession, elle a expliqué que c'était les prêtres à Genève qui l'ont influencée pour faire ce geste d'empoisonnement. Et les prêtres, tous ont été emprisonnés, et Antonia, elle, regardez ce qui est arrivé. Et voilà. Comment? Voilà, sa vie était raccourcie. Elle a été raccourcie, décapitée le 14 juillet 1535. Donc voilà. Alors, les réfugiés français maintenant, puisque alors j'ai beaucoup parlé des huguenots. Les huguenots, c'était les évangéliques français à l'époque, d'accord? Ben, devaient fuir parce que maintenant il y avait aussi des persécutions par le roi François Ier en France. Et alors, et la raison, ça c'est important. Alors voici la France, si on veut. Et Genève, ben c'est mon doigt. Et donc, Genève, c'est vraiment c'était l'endroit le plus sûr et le plus simple pour s'échapper. Et donc, alors, les gens venaient à Genève comme ils pouvaient. Et donc, voilà un petit peu ça c'était les persécutés en français. Et comment est-ce qu'ils ont été persécutés? Ben, les mains et les nez amputés, les têtes ont été marquées avec un fer rouge, beaucoup ont été tués, certains ont été brûlés sur le bûcher. Alors maintenant, les choses avancent vite. La messe catholique est officiellement abolie à Genève le 10 août 1535, d'accord? Plus de messe, qui a été interdite par le Conseil de 200 à Genève. Et il y avait aussi le triste départ des sœurs de la Sainte-Claire couvent. Le départ le plus célèbre de Genève, ce sont, alors c'est intéressant, Farel est allé au couvent, il y avait 24 sœurs dans un couvent à Genève qui est aujourd'hui comment dire, la loi, vous savez, où ils jugent les gens, comment on appelle ça, le tribunal, merci. C'est le tribunal, mais c'était un, comment dire, un couvent à l'époque. Et donc, il est allé annoncer l'évangile à ses 24 sœurs pour leur demander, écoutez, convertissez-vous et restez à Genève. Eh bien, il n'y en a qu'une qui s'est convertie, elle s'appelle Blaisine de Voirembert, elle s'est convertie à Christ. Les autres religieuses ont quitté Genève, le duc de Savoie leur a fait refuge à Annecy, et le jour où elles sont parties, on leur a offert des chaussures. Elles n'avaient jamais mis des chaussures de leur vie. Elles pensaient que les vaches qu'elles voyaient pour la première fois étaient en fait des ours et que les moutons des loups. Pas imaginer hein, le genre de vie que certaines de ses sœurs ont vécu. Elles ont marché à pied jusqu'à Saint-Julien, puis Annecy, et le couvent fut bientôt transformé en hôpital. Ça, c'est la cathédrale à l'époque de Calvin. Les protestants ont un monstre culte en 1535 pour remercier Dieu d'être en train de libérer la ville. Et là, on arrive vraiment à la date clé de Genève. C'est le 21 mai 1536, où tous les gens qui étaient éligibles pour voter se sont mis dans le cloître. Et ils ont voté, tenez-vous bien, à l'unanimité d'adopter la réforme. Et à partir de ce jour-là, ça qui est dingue, c'est que le catholicisme a été maintenant interdit à Genève. On ne peut plus être catholique. Ou bien tu deviens réformé, ou tu pars. C'est simple que ça. C'était clac-clac à l'époque. Et Genève est devenue donc une ville réformée. Alors, notez qu'on n'a même pas encore parlé de Jean Calvin. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça va? D'accord? La vie de Jean Calvin. Alors, comment est-ce que la vie de Jean Calvin et Genève, en fait, se sont joints? Alors là, on vient de voir que comment Genève est devenue réformée. Alors maintenant, tac, le vote a eu lieu, la ville est réformée, Farel a été vraiment utilisé pour amener cette réforme à Genève, avec Viret et bien d'autres. Mais qu'en est-il de la vie de Jean Calvin? Alors, Jean Calvin n'a jamais imaginé l'étendue et l'influence de son ministère à Genève et qu'il aurait dans le monde entier. Et ça, c'est ce qu'on va voir, qu'on peut ressentir encore aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous montrer dans les sessions qui viennent, c'est combien la vie de cet homme et les réformés, les réformateurs et donc de la parole de Dieu a un effet incroyable qu'on peut ressentir encore aujourd'hui. Mais lui, il n'a jamais imaginé ça, bien sûr. Il était avant tout un infatigable prédicateur. Il a révolutionné la puissance de la prédication en adoptant une approche systématique de la Bible, verset par verset. C'était son truc, d'accord? C'est la prédication textuelle suivie, verset par verset. C'était la révolution. Et il prouvait par cette manière, il pouvait prêcher des livres entiers. Et l'approche systématique, doublée d'une fréquence impressionnante de ses prédications, ont eu pour résultat un grand travail aux effets colossaux, pas seulement à Genève, mais dans l'Europe et dans le monde entier. Et la biographie qu'on va faire maintenant, bah, vous donne quelques lignes sur tout ce qu'il a fait, d'accord? Donc, il est né à Noyon. Je sais pas, est-ce que quelqu'un est déjà allé à Noyon? Alors, Noyon, c'est au nord de Paris, environ 1 heure, d'accord? Petit village, très joli. Le 10 juillet 1509, au nord-ouest de la France, il est né environ 25 ans après Luther et Zwingli. Alors, Luther et Calvin se sont jamais rencontrés, mais ils ont correspondu, d'accord? À Noyon, il y a encore la grande cathédrale. Vous allez voir. Tac! C'est la grande cathédrale. La photo n'est pas très bonne, mais bon, voilà, elle est là. Et le père de Calvin était secrétaire de l'évêché. Il voulait que son fils entre dans les ordres. Donc, il s'est dit, ouais, écoute, fiston, tu vas devenir prêtre ou moine. Et en 1520, Jean Calvin, devenu aumônier de la cathédrale, ce qui lui a permis de voir, peut-être, il commençait à voir un petit peu certaines des pratiques un petit peu contestables dans l'église. Ça, je devine un petit peu, d'accord? Alors. À 14 ans, le gars, il était plutôt intelligent. À 14 ans, il part à Paris pour étudier la théologie. Et il avait 14 ans, 1524, il entre au collège de Montaigu. Collège de Montaigu à Paris. Il obtient un diplôme à 19 ans, une maîtrise en art en 1528. Il va à Orléans pour étudier le droit, puis il va à Bourges où il reçoit son doctorat. Alors, ce qui est vraiment génial, l'autre, enfin, il y a quelques mois en arrière, on était à Paris, on est allé, il y a un livre qui s'appelle la Paris protestant. On a trouvé l'endroit, tous ces endroits, on peut aller les voir à Paris. On peut voir la maison de Calvin, c'est vraiment intéressant. On a même rencontré la dame qui vit actuellement là où Calvin était. Vraiment intéressant. Qui est pas du tout chrétienne, mais bon. Sa conversion à Christ. Alors, c'est pendant ce temps qu'il se convertit à Christ, ou bien à Bourg, on ne sait pas exactement où, mais voici ce qu'il dit. Je cite Calvin. Dieu, par une conversion soudaine, a soumis et éclairé mon esprit jusqu'à le rendre accessible, ce qui fut encore plus difficile que ce à quoi je m'étais attendu dans ma jeunesse. Ayant reçu un certain goût et une certaine connaissance de la vraie piété, je fus immédiatement enflammé d'un désir si intense de progresser dans ces choses que, quoique je n'ai pas abandonné complètement mes autres études, je les ai poursuivies avec moins d'ardeur. Donc il a dit qu'une fois s'il converti, paf, il était enflammé par la parole de Dieu et par la réforme. Donc il avait compris la signification du salut par la grâce au moyen de la foi seule et il a commencé très vite à mettre par écrit ses découvertes. Donc là, il a dû fuir. C'est la seule image que j'ai trouvée dans toutes mes études. C'est une petite image à peu près de cette taille que j'ai trouvée dans le musée avant qu'ils l'ont refait. Et ça, c'est quelqu'un qui est en train de fuir. Parce que maintenant, il était luthérien. Et sous François Ier, c'était interdit. Donc déjà, ils étaient persécutés. Donc, il a dû fuir. Et pourquoi? Parce qu'en 1533, un gars qui s'appelait Nicolas Cops, qui était le recteur de l'Université de Paris, prononça un discours inaugural que les nombreux étudiants crurent écrit par Calvin. Ah, donc ils ont dit, ah, là, on entend du Calvin dans tout ça, là, d'accord? Et Calvin était maintenant un homme traqué et considéré comme un hors-la-loi. Il a dû fuir la France pour sauver sa vie. Donc, il s'est laissé glisser de sa fenêtre par des draps de son lit. Ça fait un bon film, je trouve, personnellement. Alors, voici, on a trouvé la maison. Ça, c'est la maison aujourd'hui. Et là, le toit. Alors là, il faut vraiment creuser pour trouver. La porte était fermée à clé. Il fallait vraiment trouver, rentrer. Et au pile au moment, la dame qui habite là-haut, super sympa, ben, nous a accueillis. Et nous a, ouais, ben, alors, elle savait sans rien savoir. Hein. Ben, oui, j'habite là depuis quoi, 10 ans. Calvin, oui, on m'a dit que, voilà, mais elle savait rien. Et nous, on était là, waouh, trop bien, est-ce que je peux toucher le mur? Ils ont dit, wow, c'est un peu bizarre. Enfin, je dis en blaguant, bien sûr. Hein. Parce que si on touche le mur, on reçoit une indulgence. Non, c'est pas vrai, d'accord. Alors, donc, il est traqué, il doit fuir, et il va à Bâle, qui était déjà une ville protestante. Alors, à Bâle, il s'est dit, il faut que j'écrive un livre pour expliquer au roi et aux Français, le pourquoi des évangéliques. Leur dire, écoutez, les évangéliques, ils utilisaient déjà le nom. Les évangéliques sont les gens bien, sont sympas, pas de problème, travailleurs, des belles familles, machin truc et tout ça. S'il vous plaît, arrêtez de les persécuter. Donc, il a décidé d'écrire un livre et voici comment il commente son livre. Je me suis mis à la tâche spécialement pour nos propres Français car je savais que beaucoup avaient faim et soif de Christ et aussi que peu seulement avaient une réelle connaissance de lui. Donc, il avait vraiment l'envie d'expliquer ce qu'était l'Évangile d'une manière systématique. Et donc, ce livre, c'est l'institution chrétienne. L'institution chrétienne de la religion chrétienne, enfin, l'institution de la religion chrétienne, qui est devenue un best-seller dans le monde protestant. Donc, c'est un livre très important, écrit de Bâle. Et il était convaincu que le roi, François Ier, allait le remercier. Mais ça n'a pas marché non plus, d'accord? Mais j'aimerais vous montrer, alors ça c'est quand même, alors je vous la montre parce que c'est une photo de beaucoup plus tard, c'était sous les persécutions sous Louis XIV, d'accord? Mais j'aimerais vous montrer comment les persécutions étaient terribles, d'accord? Alors, voici une maman, et voici un papa. Ils ont dû fuir un petit peu, mais regardez, les soldats ont leurs 3 enfants. Et les soldats tiennent leurs enfants et leur disent, est-ce que vous renoncez votre foi protestante et redevenez catholique, sinon, schlac. Alors, c'est terrible. Le type de persécution qu'il y a pu y avoir, et je crois que nous, ben, on a pas, moi, j'ai été insulté. Je dis aux gens, j'ai jamais perdu une goutte de sang pour l'évangile de ma vie. j'ai été insulté, des gens qui m'aiment pas, ça fait mal, d'accord. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de terrible dans tout ça. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est pour ça que Calvin écrit son livre, pour essayer de dire, écoutez, calmez-vous les gars, les évangéliques sont les gens bien. Alors, vous connaissez le désert, de nouveau c'est plus tard, mais ça montre aussi, c'est une belle image, où les protestants évangéliques ont dû fuir, et ça c'est dans le centre de la France, vers le musée du désert. Si vous avez jamais vu ce musée, vers Alès, moi j'ai pleuré dans ce musée, tellement il est bouleversant. Et là on voit tous ces protestants qui sont là en train d'avoir un culte illégal, et alors là il y a un gars avec un parapluie, parce qu'en fait c'était le garde. Et tant que le parapluie était ouvert, c'était ok. Si le parapluie était fermé, attention, Louis XIV, c'était les dragons du roi qui venaient. Et alors, là, ils devaient fuir. Et les dragons du roi, ils étaient malins. Ils écoutaient les chants. Quand ils chantaient, paf, ils pouvaient les traquer. Imaginez la peur de chanter, parce qu'on sait qu'on va se faire voir. On est dans un monde différent aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous savez, aucun pays au monde, tenez-vous bien, aucun pays au monde n'a versé plus de sang pour l'évangile que la France. Et parfois, on se pose la question, pourquoi l'État de la France est si pauvre? Alors, à l'époque de Calvin, tenez-vous bien encore, disons un petit peu plus tard, la Sainte-Barthélemy, peut-être vous connaissez, 1572, il y avait environ 1 500 000 évangéliques en France. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, 750 000. Donc, 500 ans plus tard, on a la moitié du nombre d'évangéliques qu'on avait il y a 500 ans en arrière. La France a été totalement décimée, quoi. Et là, peu à peu, on remonte la pente, on fait comme on peut, d'accord? Alors voilà, donc ça c'était les persécutions. Et alors, là maintenant, c'est pourquoi Calvin est venu à Genève. Calvin a écrit son livre, Farel qui est debout l'a lu. Calvin passe à Genève un jour. Farel, malin. Vous voyez, je vous dis, zéro tact, très efficace. Farel va voir Calvin à l'auberge de la Tête Noire à Genève. Et il dit, Calvin, si tu n'entends pas l'appel de Dieu de venir à Genève et mener la réforme, que Dieu maudisse toutes tes études. Calvin, il a dit, waouh, c'est comme si Dieu me parlait. Il a dit, ok, il est resté 25 ans, il a changé de monde. Alors, l'application, c'est celle-ci. Si vous essayez de recruter quelqu'un et le moyen normal ne marche pas, essayez la menace. D'accord? On sait jamais, ça pourrait franchement changer le monde comme ça l'a changé ici. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. Il a vraiment menacé, là. C'est vraiment un événement qui s'est passé. Et Calvin, là, la menace. Je vous préviens au nom de Dieu Tout-Puissant, je cite, que si au prétexte de poursuivre vos études, vous refusez de collaborer avec nous à cette œuvre du Seigneur, le Seigneur vous maudira et vous occupez de vous-même plutôt que de Christ. Alors maintenant, voici comment Calvin décrit ce moment. Farel, qui brûlait d'un zèle extraordinaire pour faire avancer l'évangile, comprit immédiatement que mon cœur était attaqué, me vouant à mes études personnelles pour lesquelles je désirais rester libre d'autres occupations, et trouvant qu'il n'y gagnait rien par les supplications, il procéda en prononçant une imprécation que Dieu maudirait ma retraite et la tranquillité des études que je poursuivais si je devais me retirer et refuser de prêter assistance quand la nécessité était si urgente. Sa malédiction m'a tellement frappé de terreur que j'ai renoncé au voyage que j'allais entreprendre. Alléluia. D'accord. Donc il est venu à Genève et là il a transformé le monde. D'accord. Alors quel était son but à Genève? Alors voici Genève aussi. Alors à Genève il n'y a pas que de la fondue et de la raclette. Il y a aussi des filets de perche, d'accord, du lac. Il y a au moins trois choses à manger là-bas, et d'autres, bien sûr. Mais voilà, donc il est venu à Genève. Alors, vous savez que Calvin, Farel pensaient qu'il y avait trois clés d'une bonne église. Trois. Numéro un, la prédication textuelle suivie de la parole de Dieu. Deux, les ordonnances. Repas de la Sainte-Seine, baptême. Trois. C'est la moins populaire. Vous êtes prêts? La discipline d'église. La discipline d'église. Et alors, ils l'ont appliqué à Genève. La discipline d'église, une fois que vous commencez à appliquer la discipline d'église, vous n'aurez que des problèmes, d'accord? On peut en parler si vous voulez un jour. J'ai connu ça aussi parce que nous, on applique la discipline d'église publique, Matthieu 18, et eux aussi, ils le faisaient. Mais ça s'est assez mal passé parce que, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Calvin a été viré de Genève. Parce que, par exemple, il y avait dans le, il y a un endroit qui s'appelait le Bourg du Four, il y avait une rue qui s'appelait la rue des Belles-Filles. C'était la rue des prostituées. Alors, sous les catholiques, c'était ouvert. Ben, sous les protestants, ils ont dit, bon, on la ferme. Ah, c'était la révolution, quoi. Waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Vous arrêtez la prostitution? Mais c'est quand même un truc, voilà. Alors, un non-chrétien aujourd'hui, il a une très mauvaise réputation à Genève parce que tout le monde, les non-chrétiens disent, waouh, c'était un moraliste. Ben, il était anti-tout. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu dit, ben, chapeau, quoi. T'essaies de faire du bien dans ta ville, quoi. Et voilà. Donc, il a été viré. Ils sont partis. Et il était à Strasbourg. Et là, les trois meilleures années de sa vie, il a rencontré sa femme, Idolette de Bure, qui était veuve. Et alors, absolument, ils ont eu un enfant qui est mort très tôt. Mais finalement, 3 ans plus tard, la ville a dit, Calvin, on s'est trompé. Est-ce que tu pourrais revenir? Il a hésité. Il a dit, OK, j'y vais. Il est rentré à Genève. Et alors, à Genève, il a commencé, il a fait plusieurs éditions de son institution. Le catéchisme, un psautier genevois, hein. Les gens à l'époque ne chantaient pas dans l'église catholique, c'était en latin, c'était une sorte de chorale. Il s'est dit non, il faut que les gens chantent. Donc il a demandé à un gars, Théodore de Bèze, d'écrire tous les psaumes en vers chantables. Un autre gars pour mettre de la musique, c'est devenu le psautier, un best-seller dans le monde entier, même aux États-Unis, c'est parti. D'accord. Alors il chantait, tout le monde chantait, c'était sympa. Idolette, sa femme est morte en 1549 de tuberculose, ça c'était une tragédie pour lui. Et il ne s'est jamais remarié. Et puis, peut-être sa santé s'est beaucoup dégradée parce que là, il s'est donné à son travail. Il dormait 3, 4, 5 heures par soir maximum. Il travaillait comme un fou, quoi. Il y avait aussi l'incident Servet, donc l'exécution de Michel Servet. C'était un hérétique. Il était anti-trinitaire. Il ne pensait pas que Jésus était Dieu. Et à l'époque, on pouvait vivre et mourir sur ce qu'on croyait. Et il était, alors beaucoup de gens blâment Calvin de l'avoir exécuté, c'est faux, c'est la ville l'a exécuté, c'est pas lui. Lui, là, en fait, il a plaidé pour une mort moins cruelle, la décapitation, mais la ville a dit non, donc il a été brûlé sur le bûcher en 1553. En 1559, ils ont fondé l'Académie. Alors ça, c'est quand même intéressant, c'est une école, alors l'école aujourd'hui ressemble exactement à ce qu'elle ressemblait sous Calvin en 1559. Alors, tenez-vous bien. On en reparlera tout à l'heure. Genève est la première ville au monde où l'éducation pour les enfants a été rendue obligatoire. Si vos enfants doivent aller à l'école aujourd'hui, avant c'était tout le monde n'était pas au même niveau pour l'éducation. Là, tout le monde y allait, et Bible comme texte. Première ville au monde, et ça, tout le monde vous dira, ça a déjà changé le monde. Ça a changé le monde déjà. Et alors, ils ont construit cet établissement en 1559 pour la formation des enfants. Alors, il y a un débat sur si c'est les enfants ou juste les garçons. D'accord. Ensuite, les pasteurs huguenots français sont venus ici pour être formés, pour être ensuite renvoyés en France pour implanter des églises. Alors, tenez-vous bien, on lui donnait le nom de l'école de la mort. Venez vous faire former. Waouh, ils venaient, des milliers sont venus. Formé, tu repars en France, chlac, t'es tué. Il pouvait pas arrêter les gens de venir se former dans cette école de la mort. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Et ensuite, plus tard, les avocats. Sous Bèze, c'était des avocats qui voulaient former. Calvin, bien sûr, ben, il a écrit énormément. Il prêchait beaucoup, on en parlait aussi. Et là, ben, il a vieilli comme tout le monde, donc on devait le porter à l'église pour prêcher. Finalement, ben, il est mort en 1564. Il avait 55 ans. Et la doctrine de Jean Calvin, alors on va pas parler de sa doctrine, mais comme ça, vous voyez, c'est un résumé de sa doctrine. Les 5 points du calvinisme, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, c'est les choses qui sont débattues. Oui, je suis pour. Oui, je suis contre. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que c'était 54 ans après la mort de Jean Calvin. Il y a un autre professeur à Leiden qui s'appelait Jacob Arminius. Et alors, là, il y avait un grand débat sur la doctrine réformée, d'accord? Alors lui, Arminius, il a proposé 5 doctrines et le calvinisme a répondu avec ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Alors je ne fais que les citer. La corruption totale, donc l'homme est né totalement corrompu. L'élection inconditionnelle, donc on est élu avant la fondation du monde, c'est ce que Éphésiens 1 dit. L'expiation limitée, donc Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde ou est-ce qu'il est mort que pour les gens qui, en fait, ont reçu l'évangile et sont au ciel? Voilà. 4, la grâce irrésistible. Il est impossible de résister à la grâce de Dieu. Donc, voilà, si on est, on peut pas résister à la grâce de Dieu si on est appelé. Et 5, la persévérance des saints. Ça veut dire simplement qu'un vrai chrétien persévérera jusqu'à la fin. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Et en anglais, c'est très facile à retenir. Tulip, c'est une tulipe. Et comme on l'a dit il y a 2-3 jours en arrière, la Hollande, là où ce débat a eu lieu, est connue pour les tulipes. Tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Exactement les mêmes qu'en français. D'accord? Donc ça, c'est un résumé de la doctrine de Calvin sur le salut. Et ensuite, il y a la devise de la réforme. Alors ça, c'est la réforme. Si on devait résumer toute la réforme pour les centaines d'années qu'elle a vécues, bien voici comment on la résume. Sola scriptura, la Bible seule. 2, sola fide, la foi seule, à part les œuvres. 3, sola gratia, la grâce seule. Solus Christus, Jésus-Christ seul. Et numéro 5, soli Deo Gloria, tout à la gloire de Dieu seul, personne d'autre. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la devise de la réforme. Et voilà, ce que vous verrez si vous venez faire un tour de la réforme à Genève, parce qu'en fait, on a un ministère, mais je vous donnerai des brochures, vous pouvez venir faire des tours de la réforme et voir tout ça pour vous-même. Mais voici quelques-uns des trucs que vous allez voir. Donc, Genève. Alors ça, c'est Genève exceptionnel, c'est quand il y a du soleil, il n'y a pas de brouillard. D'accord? Donc, on est parti hier, mais c'était le brouillard épais. Je pouvais à peine voir ma voiture. Et ici, grand soleil, à la plage, les gens qui se baignent. Je me dis, mais on est dans le même pays ou quoi? C'est incroyable, la France. Moi, je trouve ça génial. J'ai envie de venir à Toulon, en fait. Ça, c'est la cathédrale aujourd'hui. Ça, c'est l'auditoire Calvin à droite de la cathédrale où Calvin a beaucoup prêché. D'accord? C'était les étudiants, c'était vraiment des classes. La rue Calvin, sa maison était juste là. D'accord? Donc, c'est la porte, c'est un nouveau bâtiment maintenant. C'est le puits d'eau calviniste. D'accord? Enfin, c'est là où il a puisé l'eau. Ça, c'est le mur des réformateurs. Une vieille image. Beaucoup plus beau aujourd'hui. Et voici les 4 grands réformateurs. D'accord? Regardez Farrell, vraiment marrant. Ça, c'est Farrell. Hein, je vous ai dit, Farrell, il est sympa. Il est l'homme de la Bible. Zéro tact. Poignet fermé. C'est lui qui a dit à Calvin, écoute, si tu viens pas, que Dieu maudisse tes études. Alors, on voit même son tempérament dans la statue. Ça, c'est Calvin, qui, avec un doigt dans l'Ancien Testament, un doigt dans le Nouveau Testament. Théodore de Bèze, lui, il a un livre qui s'appelle Academia, parce que lui, c'était le recteur de l'académie. Et c'est lui aussi qui a créé le cantique. Et ça, c'est John Knox. John Knox, qui est venu à Genève aussi. Il a créé la Bible de Genève quand il était à Genève. Et voilà. Ça, c'est le jet d'eau. C'est notre tour Eiffel, si vous voulez, d'accord? C'est notre symbole. Avec la belle Genève sous un glorieux jour de soleil comme à Toulon, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est mon livre. Alors, j'ai des copies si vous voulez regarder en acheter un, vous pouvez venir me voir. Et voilà, si vous allez regarder aussi Calvin Tour, c'est notre ministère. On donne des tours de la réforme en plusieurs langues aussi. On a plein de guides. C'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment très vraiment génial. Faire des tours de 2 heures ou de 3 heures. Et ça, c'est la fin de cette session. Voilà, monsieur, dame. Alors, je sais pas. Il est exactement 9h. Comment ça se passe? La prochaine pause est à 10h. Est-ce qu'on prend une pause de 5 minutes là ou pas? Bien, non. Ah, vous êtes pire que les Suisses là, c'est génial. Peut-être réaction, on prend 5 minutes, on fait un petit, vous avez des questions, des commentaires, addition, soustraction, et puis ensuite, tac, on attaque la deuxième session. On fait comme ça? Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous devez, voilà, lever, faites comme vous voulez, on prend un petit peu de relax. Monsieur. Oui, bon, alors là, c'est un jumelage du christianisme et la philosophie, si on veut. Je ne sais pas si je suis compétent pour vraiment répondre, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Oui, c'est ça, c'est sûr. Oui, c'est vraiment intéressant, tout à fait. Oui, j'ai aucune idée pourquoi vous...
Mais de quoi il faisait sur le latin de la Vulgate, toutes ces références pour les traduire en...
Ah, écoutez, alors moi, je suis Rousseau, peut-être monsieur pour vous aider, parce qu'il connaît mieux Rousseau que moi. Non, je peux vraiment pas vous répondre, alors. Bonne question, par contre, mais alors je suis incapable de répondre. Monsieur.
Est-ce que je peux apporter un témoignage?
Oui.
Vous avez parlé, ou tu as parlé?
On se tutoie, ça va être plus simple, d'accord.
De Orbe, comme étant une des villes évangélisées par Guillaume Farel, si je veux bien. Mm. Il se trouve qu'en 1945, un pasteur Duverdon en Suisse.
D'accord, ben écoutez, Orbe a encore apparemment une réputation un peu protestante aujourd'hui. Girardin, je connais le nom, mais je ne sais pas si c'est la même personne que je connais, mais je ne sais pas qu'ils étaient de Orbe. Intéressant. Écoutez, pardon. Alors Calvin moins, c'est vrai. Luther, il est connu pour avoir été assez virulent contre les Juifs. Pour lui, c'était inadmissible que les Juifs aient tué le Messie. Enfin, voilà. Alors de nouveau, je suis pas un expert sur Luther, mais c'est pas faux. Et moi, je crois que ce que ça révèle, c'est que tous ces hommes que Dieu a beaucoup utilisés, ben ils avaient tous des défauts. Pas comme nous, bien sûr. Hein, nous on n'a pas de défauts, d'accord. Mais eux, ils avaient des défauts. Mais je pense que c'est important de le savoir. Et c'est vrai que Luther, ben, c'est une tache noire. Et beaucoup de gens diraient que l'exécution de Servet est une tache noire sur Calvin. Et c'est pas faux. Il y a même un monument à Genève où les protestants demandent pardon pour Servet. Bien comme moi. Servet, c'est le gars qui était l'hérétique qui a été brûlé. Vous voyez? Ben parce qu'il était hérétique, il était anti-trinitaire. Il pensait pas que Jésus était Dieu. Question. Alors, les ordonnances, c'est la communion, donc la Sainte Cène et le baptême. Voilà. Donc, c'était la prédication, ordonnance, baptême et Sainte Cène et la discipline d'église. Discipline d'église, c'est ce que les gens n'aiment pas trop aujourd'hui. Allez, je prends mon deuxième message pour savoir ce qu'il faut dire parce que sinon, ça va être un peu compliqué. S'il y avait d'autres questions, est-ce qu'il y aurait de l'eau, par exemple? Est-ce que quelqu'un pourrait... Il y a encore des questions, commentaires, ajouts, soustractions? Je dis toujours, quand je donne des tours de la réforme, il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose que je ne sais pas, ce qui est normal. C'est impossible de tout savoir. Et parfois, on me corrige aussi. Alors, je dis toujours, voilà, est-ce qu'il y a des additions ou des soustractions? Comme ça, voilà. Comme ça. Alors ça, c'est une question, j'ai pas vraiment la réponse. On me la pose assez souvent, en fait. Mais voilà, 1517, ça paraît, je sais pas si le mot apparaît à ce moment-là, surtout en allemand, je connais pas l'allemand, mais c'est à ce moment-là. Alors, je vais vous montrer plus tard un truc, mais il y a le mot protestant, donc proteste contre la doctrine catholique, réformé, qui veut dire qu'il voulait réformer l'Église catholique. Il y a le mot évangélique, qui est déjà sous Calvin existait. Nous, on l'attribue souvent aux États-Unis dans les années 1950-60, le nouveau mouvement évangélique, mais il existait déjà avant. Évangélique, ben, évangile, la parole, la bonne nouvelle, donc c'est vraiment un retour à la parole de Dieu. Et puis en France, le mot huguenot, ça aussi, je ne sais pas exactement d'où vient ce mot, il y a plusieurs théories. Ah, c'était une insulte. Mais ça vient de quoi? Est-ce que vous connaissez la racine du mot alors? Parce que moi, on m'a dit, voilà, il y avait un roi Hugon, ou Hugo. Quelqu'un m'a dit, c'était pas... Ouais, alors j'ai jamais vraiment atterri sur la définition du mot huguenot. Oui. Ah oui, oui, voilà, on parle... Oui, prédicant, on parle pro. Oui, c'est une bonne remarque. Oui, tout à fait. Oui, peut-être dernière 8 questions. Vas-y. Oui, alors bien sûr, tout au long de l'histoire, il y a Jan Hus, qui était 100 ans déjà avant Luther. Lui, c'est un grand réformateur aussi. Donc en fait, depuis Jésus-Christ, il y a toujours eu, je dirais, l'Église fidèle. Mais c'est à partir de l'année 400 où l'Église catholique a commencé à dévier avec pas mal de doctrines qui sont extra-bibliques. Et alors, bah, certains de ces réformateurs, c'était des catholiques. Ils n'étaient pas contre l'Église catholique parce qu'elle n'était pas encore corrompue, si on veut. Et ils étaient des fervents. Oui, on revient toujours à la parole de Dieu. Et tout le long, en Angleterre, par exemple, William Tyndale, des gens comme eux, ces gens qui voulaient mettre la Bible dans leur langue commune, ils ont tous été persécutés. Et tous ces gens étaient des réformés qui ont un immense impact. Aujourd'hui, on le sent encore. Ouais. Les cathares, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, dans tous les pays, il y a toujours ces... Sur le mur des réformateurs, c'est vraiment marrant, c'est ça, je m'y attendais pas du tout. Le dernier bas-relief, c'est la Hongrie. La Hongrie, qu'est-ce que la Hongrie fait là? Ben, c'est un grand pays protestant où il y a eu un gars qui s'appelle Boxke. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Je connais assez mal, mais Boxke avait amené l'évangile en Hongrie. Et là, ils sont sur les murs des réformateurs. Donc, il y a partout des réformateurs. Mais c'est comme la plupart des pasteurs aujourd'hui, on est tous des, enfin, moi, peut-être pas de votre façon, mais moi, je suis un petit pasteur. Quand je mourrai, tac, personne va se souvenir de moi. Ben, c'est ça le monde chrétien. C'est-à-dire, on a notre service, on a notre ministère, on meurt, on est oublié, mais l'évangile continue à grandir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et on a tous une part. Certains deviennent très connus, comme Calvin et compagnie, mais la plupart, ben, on est connus de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Ah ouais, ben ça c'est une belle histoire ça. Ouais. Alors là, dis donc, d'avoir une parenté des dragons du roi, parce que ces gars-là, eh ouais, 1702 à 1704, hein, c'était vraiment une période terrible ça. Oh là là, la France a vraiment connu des grosses périodes terribles. Donc lui, il le voit plutôt comme une protestation plutôt qu'une proclamation. Mais bon. Alors moi je dis, on proteste en témoignant, comme ça tout le monde est content. Voilà, hein, c'est bon, c'est bon. Hein. Il faut toujours s'arranger dans la vie, d'accord. C'est la Suisse, on est neutre. Bon, allez, je repris et on attaque. Deuxième partie. Seigneur, merci vraiment pour cet historique. Et c'est vraiment encourageant de voir l'histoire, Seigneur. Ça nous encourage de comprendre notre passé, toutes ces personnes qui ont galéré et qui se sont battues, Seigneur, pour la vérité de l'Évangile. Et je te prie maintenant, en regardant maintenant plus l'effet dans un domaine en particulier, que puisse ça peut vraiment nous encourager, Seigneur, à être fervent dans notre foi et dans notre approche de la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, alors maintenant, comme expliqué tout à l'heure, le but c'est de montrer, on a vu globalement la réforme, comment la réforme a eu un effet ou des effets sur le monde qu'on peut ressentir aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On a déjà parlé de l'éducation, on en reparlera tout à l'heure. Mais puisque j'habite à Genève, et puisque beaucoup d'Américains, la plupart des gens qui viennent faire des tours de la réforme à Genève sont des Américains, des évangéliques américains. Et alors, il y a beaucoup de questions sur l'éthique protestante du travail. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, je vais vous expliquer tout ça. Et je me suis dit que ça, ce serait peut-être un sujet qui pourrait vous intéresser pour voir comment la réforme, donc la parole de Dieu, a un effet sur des pays, des continents au niveau travail éthique. D'accord? Alors, quelques mots d'introduction. Il y a exactement 504 ans de cela, Martin Luther a affiché ses 95, 95 thèses sur la porte de l'église universitaire de Wittenberg en Allemagne. La réforme fut lancée. Mais on peut dire, comme on l'a déjà vu, que c'est Calvin qui a fait rayonner la réforme dans le monde entier depuis la vieille ville de Genève par sa prédication systématique de la parole de Dieu. Alors, il y a de nombreux effets de la réforme, mais dans cette session, j'aimerais pencher vraiment sur un effet, un des effets les plus puissants de la réforme que beaucoup de gens voient autour d'eux, et surtout en Suisse, j'ai envie de le dire, mais ignorent sa source. Et c'est ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail. Alors, si vous galérez dans votre travail, je vous l'ai déjà dit ça tout à l'heure, et surtout si vous avez la peine à comprendre pourquoi vous devez travailler. C'est une question intéressante, ça. Vous passez beaucoup d'heures par jour à travailler, 8 heures, peut-être plus. Pourquoi? Est-ce que c'est simplement pour gagner de l'argent pour pouvoir faire un restaurant le week-end? Est-ce que c'est ça le but? Ou est-ce que c'est pour payer votre maison, votre voiture? Est-ce que pourquoi on travaille finalement? Ça sert à quoi tout ça? Alors voilà, c'est ce qu'on aimerait. J'aimerais vraiment vous encourager après cette session que non seulement vous compreniez pourquoi vous travaillez, mais pourquoi vous n'allez pas pouvoir attendre de courir au travail lundi matin. D'accord? Si je réussis, je serai vraiment content. Alors voici la Suisse. J'ai pris cette photo de l'avion. La Suisse est un pays franchement étonnant. Elle ne fait que 41 000 km² avec une population d'environ 8 millions 500 000 habitants, qui était à peu près le nombre d'habitants dans la ville de New York. D'accord? Il y a même des villes qui sont deux ou trois fois plus grandes en population que la Suisse. Alors vous savez qu'en Amérique, on a 50 États. D'accord? Alors, quand vous écoutez Trump, des fois, je me dis, tiens, on en aura un 51e, peut-être un 52e, j'en sais rien du tout, je blague, d'accord? Mais on a 50 États aujourd'hui, et saviez-vous que la Suisse rentre 4 fois dans l'État de la Caroline du Nord? Vous saviez pas ça? D'accord, c'est incroyable. Et je me dis, waouh, c'est vraiment un petit pays, la Suisse. Vraiment minuscule. Par contre, et là, j'ai besoin de votre aide. D'accord? Tenez-vous bien, j'ai besoin de votre aide. La Suisse est tout petite, mais elle est connue dans le monde entier pour des produits de qualité. Alors, je vais vous montrer une photo, j'aimerais que vous réagissiez. D'accord? Vous pouvez crier, sauter, faire ce que vous voulez. C'est parti. Ouh, la réaction, pas mal. D'accord? Donnez-moi des noms de montres suisses. Rolex et Tissot, apparemment, c'est connu. D'accord? Oui, Tagawa, très bien. Longines. Alors, Rolex, Omega, Breguet, Patek Philippe, Swatch, Breitling, Frédéric Constant, Chopard, Hublot, Yaer Lecourt, Longines, Tissot, Piaget, Radeau, Raymond Weil, Tagheuer et beaucoup plus. La Suisse est connue pour ses montres. Réagissez. La réaction est encore plus grande, là, d'accord. Ouah. Comment? Oh, Ragusa. Là, on a une fervente de Ragusa, d'accord. Est-ce que qui connaissait pas Ragusa? Ah, ben maintenant, vous connaissez Ragusa, d'accord. Alors, d'autres marques de chocolat suisse, dites-moi. Villard, Fabergé. Oh, ça bouge, c'est génial. Vous êtes des grands chocolatiers, je ne sais pas comment on dit ça, des connaisseurs de chocolat, d'accord. Alors, Cahier, Suchard, Lindt, Fred, Toblerone, Nestlé, Fabergé, Lirac, et Liderac, vous connaissez? Oh. Je suis impressionné par votre ligne, monsieur. Oui, franchement. Oh là là, oui, écoutez, travailler pour une chocolaterie, c'est le rêve. D'accord. En portant une montre suisse, bien sûr, d'accord. Je continue. Là, il risque pas d'avoir une réaction. Mais là, peut-être, les Français seront pas d'accord, hein. Il y a français, les fromages français, c'est bon aussi, d'accord, on est d'accord. Moi, j'habite en France, bien que je travaille en Suisse, donc voilà, hein. Mais on a quand même la fondue et la raclette, hein. Nous, on a quand même 800 variétés de fromages en Suisse. Regardez. Oh. Alors, moi, j'ai toujours un couteau suisse dans la poche. Mais ce truc, c'est génial. Il y a tout de Suisse. Un petit couteau, il y a tout ce que vous voulez. Il y a même un couteau. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, d'accord. Ah oui, alors là c'est un peu controversé, d'accord, mais bon, globalement, les banques suisses réputées, moi, pour calmer un tour, j'ai un compte dans une banque suisse, quand vous ouvrez un compte en banque suisse, c'est vraiment vrai, ils vous donnent une petite machine avec des boutons dessus, et pour accéder à votre compte, vous devez faire des numéros magiques 2 ou 3 fois avec ces petites machines, internet, machin, votre téléphone, pas pour rentrer dans le compte. Non, si vous voulez me voler, c'est impossible sans la petite machine. Non, mais la sécurité, moi, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable et ça marche. Et ils disent, alors, mon frère et mon père étaient banquiers, mon frère est encore banquier, et ils me disent, je sais pas si c'est vrai, qu'un tiers de l'argent du monde est dans les banques suisses. C'est pour ça que la Suisse risque de ne pas disparaître bientôt. D'accord. Est-ce que vous saviez que Nestlé est suisse?
Oui.
Ben oui. Siège social à Vevey. Alors, je sais pas si vous saviez, Nestlé, la plus grande société alimentaire au monde. Et pourtant, c'est dans un petit pays qui s'appelle la Suisse, quand même marrant, je trouve. Pardon?
Ça veut dire un nid.
Un nid, oui, c'est un petit nid.
C'est pour ça que le symbole de Nestlé, c'est un nid.
Ah, ben ça, je savais pas. C'est vrai? Le symbole de Nestlé, c'est un nid? Je savais pas. Ah oui, Ah, ben, la première fois que j'entends ça de ma vie, Nestlé. Le lait dans le nid. Ah ouais. Oh. Vous voyez, je suis toujours en train d'apprendre des trucs. C'est vraiment intéressant. Alors, je continue. Sinon, on va jamais s'en sortir. Les trains suisses. Bon, franchement, le TGV, il est quand même pas mal. Mais les trains suisses sont, alors oui, c'est ça. Puis il y a moins de grèves, apparemment. C'est ce qu'on me dit, hein, d'accord? La Croix-Rouge. Est-ce que vous savez que c'est un protestant qui a commencé la Croix-Rouge à Genève? Exactement. Les Nations Unies, à Genève, parce que Woodrow Wilson, le président américain, voulait les Nations Unies dans une ville protestante. Intéressant. La démocratie directe, un des pays les plus démocratiques au monde. Chaque Suisse vote 4 fois par an pour plein de trucs. Et ça marche. Ça marche vachement bien, d'accord? Et regardez, le drapeau suisse, avec la grande croix blanche, la fondation de la Suisse opprimée refuse de payer des impôts aux Habsbourg autrichiens. Ils fondent une fédération de cantons en 1291. Ils voulaient rester libres et rester rattachés à Dieu. Ils ont signé un pacte qui commence par les mots « au nom de Dieu ». Ils ont conçu un drapeau qui reflète leur confiance en Dieu, une croix blanche de Jésus-Christ sur un fond rouge. Pas mal, hein? Oui. Oh, ben dis donc, là, j'ai appris des trucs dingues, quoi, aujourd'hui. Waouh! Ah ouais. Bon, ben écoutez, qu'on va arrêter à 10h, hein, ça va être compliqué là, d'accord. Ok, ben écoutez, là on a appris un truc sur les Habsbourg. Alors, oui, alors, dernier commentaire, sinon je vais jamais pouvoir finir. Mais oui.
Avec Bâle.
La pharmacie, les pharmaceutiques, c'est énorme aussi, voilà, il faudrait que j'ajoute aussi. Peut-être un sparadrap, ça pourrait être pas mal, un truc comme ça. Non mais c'est vrai en fait, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Et puis la technologie, les machines de pointe, enfin, la Suisse, elle est connue dans le monde entier pour carrément la perfection, quasiment bien sûr, d'accord. Alors, est-ce que c'est pas remarquable qu'un minuscule pays comme la Suisse, sans ressources naturelles à l'exception de l'eau, soit connu dans le monde et que ce pays, ait joué un rôle très important, bien à des égards dans le monde d'aujourd'hui? Mais pourquoi? Voilà la question. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est pas moi qui le dis, mais les historiens donnent le crédit à Jean Calvin, mais aussi aux réformateurs et aux mouvements protestants. D'accord? Et ce qui est vraiment génial dans tout ça, parce que je suis pasteur, c'est que Calvin, c'était un prédicateur. Et il a changé par sa prédication et bien sûr l'influence qu'il a eue des pleins de domaines dans le monde. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir. Comment? Alors ça, je ne sais pas. Ça, je suis. Ouais. Parce que sur le lac Léman, il n'y a pas beaucoup de bateaux militaires, hein, mais bon, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Oui, il y a des pédalos, c'est vrai, il y a des pédalos, oui. Alors voilà. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour changer le monde? Eh bien, par les prédications. Alors, j'ai un ami qui a écrit un livre qui s'appelle The Legacy of John Calvin, His Influence on the Modern World. Je traduis L'héritage de Jean Calvin et son influence sur le monde moderne. J'ai un chapitre là-dessus. Et David Hall développe 10 effets de grande portée que Jean Calvin a eu sur le monde, qui ont profondément changé la culture moderne. Et j'aimerais donc, moi, faire un zoom sur un de ces points, sur l'éthique protestante du travail. Et comme le dit David Hall, je cite, Jean Calvin a apporté l'une des contributions les plus durables en ouvrant la voie aux pratiques commerciales modernes fondées sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail. L'impact de Calvin est incontestable. Même ses ennemis, les Espagnols catholiques, ont exprimé son impact dans ces mots amers, faisant référence à l'influence de l'éthique protestante du travail pour Calvin. Voici ce que les catholiques ont dit de lui. Je cite, Les hérétiques facilitent l'esprit du commerce. Parlons de Calvin et des protestants. Je répète, les hérétiques, donc les protestants selon eux, facilite l'esprit du commerce. Donc, pour guider notre réflexion, j'ai divisé notre étude en 5 parties clés. Premièrement, la définition de l'éthique protestante du travail. L'expression a été inventée en 1904 par un gars qui s'appelle un sociologue qui s'appelle Max Weber, dans un livre L'éthique protestante de l'esprit du capitalisme. Et pour résumer, Max Weber, dans les années, au début, fin des années 1800, a simplement observé la carte de l'Europe. Et il a constaté que les pays les plus prospères d'Europe à la fin des années 1800 étaient les pays protestants. Il a conclu que le capitalisme dans ces pays nordiques a évolué lorsque l'éthique protestante enseignée par Jean Calvin a influencé les protestants à s'engager dans le monde du travail séculier, à développer leurs propres entreprises et en s'engageant dans le commerce. Pour résumer, les protestants travaillent dur et prospèrent. Voilà ce qu'il a dit. Les protestants travaillent dur et ils prospèrent. Question, pourquoi? Pourquoi? Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est premièrement Jean Calvin et l'éthique protestante du travail. Alors là, j'espère que vous n'allez jamais oublier ça. Pour moi, ça a été révolutionnaire. Ça, d'accord? J'espère que c'est le cas pour vous. Comment Jean Calvin a-t-il développé l'éthique protestante du travail? D'où est né le concept de l'éthique protestante du travail? Alors, pour Jean Calvin, l'éthique protestante du travail vient des 10 commandements qui se trouvent dans Exode chapitre 20. Et ce qui est révolutionnaire dans la vision de Calvin sur les 10 commandements, c'est qu'il avait une vision très positive de Dieu. S'il est vrai que 8 des 10 commandements sont énumérés comme négatifs, d'accord? Calvin pensait que chaque commandement exigeait également son contraire. Donc il a dit que pour changer la vie, tu prêches les 10 commandements, mais tu mets l'emphase sur leur contraire ou sur leur opposé. Si tu fais ça, tu changes le monde. Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie, d'accord? En d'autres termes, si quelque chose plaît à Dieu, alors son contraire lui déplaît, et si quelque chose déplaît à Dieu, alors son contraire plaît à Dieu. Dit autrement, si Dieu ordonne quelque chose, il interdit son contraire, et si Dieu interdit quelque chose, il ordonne son contraire. Alors, cette règle appliquée aux 10 commandements révolutionne la vie quotidienne. Alors, essayons. D'accord? On commence. Juste pour un exemple. Le 7e commandement dit ceci. Ça, c'est juste des exemples. D'accord? Tu ne commettras pas l'adultère. Ok. Ça paraît quand même assez simple, assez clair. Si l'on ne doit pas commettre l'adultère, ok, très bien, quel est le contraire ou quel est l'opposé, si vous voulez? Il faut cultiver la fidélité conjugale. Cela devient alors un commandement pro-mariage. Dieu a créé le mariage et il veut que le mariage et la sexualité dans le mariage soient honorés de tous. Alors, travaillez-y avec ardeur. Donc, un négatif, tu ne commettras pas l'adultère, devient positif, donne-toi ton mariage. C'est top ça, franchement. Deux. Le neuvième commandement dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. En d'autres termes, ne mens pas. Ne mens pas. Alors, prenons le contraire. Si je ne dois pas mentir, il faudrait que je dise la vérité. Ce commandement devient soudainement un commandement sur l'importance de dire la vérité, de parler bien de son prochain, d'être honnête et droit. Super positif. Vous êtes encore avec moi, ça va? C'est bon? Et on continue. Oh, le huitième commandement. C'est la clé de tout. Pour lui, donc. Maintenant, le huitième commandement, dans Exode 20, verset 15, dit ceci. Tu ne voleras pas. Point, merci. D'accord. Mais ça dépend de la traduction. D'accord. Ouais, moi, j'ai mis pas dans mes notes. Oh là là. Alors, ce commandement est particulièrement important pour nous aujourd'hui, car c'est le commandement qui est à l'origine de l'éthique protection du travail. C'est l'épicentre. C'est le cœur de tout ici, d'accord? Calvin a conclu que si quelqu'un ne devait pas voler, alors je vous pose la question, quel est l'opposé positif? Alors d'habitude, je pose la question, oui, c'est quoi l'opposé, tu ne voleras point? Tu voleras. Oui, tu ne voleras point, tu voleras, oui, mais c'est pas la réponse que je voulais. Quel est l'opposé positif? Non, si tu ne dois pas prendre, tu donnes. Tu donnes. Ça, ce serait l'opposé. D'accord? Ce serait l'opposé. Calvin conclut que si quelqu'un ne devait pas voler, alors il devait bien sûr éviter le vol, mais le contraire est également vrai. Il devait protéger sa propriété, celle des autres, et s'efforcer honnêtement de préserver son propre bien, être généreux avec ceux qui sont dans le besoin. Généreux avec ceux qui sont dans le besoin. J'aime beaucoup moins 1 Timothée 6 par rapport à ça. Recommande aux riches. Alors, en fait, Calvin n'était pas anti-argent, anti-riche. Parce que la Bible dit, recommande aux riches, qui implique qu'il y avait des riches dans l'église. Donc, d'être riche dans une église, c'est pas un mal. D'accord? Recommande aux riches au présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance, 1 Timothée 6, verset 17, dans les richesses incertaines, de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en réjouissons. Il disait, t'es riche, très bien. Est-ce que tu peux jouir ton argent? Oui. Tu veux partir en vacances, faire une croisière? Ok, pas de problème. Bien qu'il n'y en avait pas à l'époque. D'accord? Mais, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité et de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide avec qu'elles saisiront la vie éternelle. Donc, on voit que la générosité était la clé ici, d'accord? Le commandement contre le vol, soudainement, devient un commandement sur le travail acharné, sur le droit de posséder des biens, sur l'importance de protéger ce qui vous revient, et le droit d'un travail honnête sur la générosité. Alors, des fois, j'ai un petit peu peur de dire ce mot, mais je vais le dire quand même. C'est une définition capitaliste des choses. Le capitalisme, c'est quoi? C'est simplement dire... Je travaille et j'ai besoin, j'ai le droit de garder ce qui m'appartient et d'être généreux avec. D'accord? Alors, sur la base, vous voyez que sur la base de la loi, Calvin n'avait pas une vision négative de l'argent. D'accord? Il est clair que selon Calvin, mammon, l'argent ne devait pas être servi, ni adoré, ni surestimé, mais il ne devait pas non plus être ignoré. Peut-être c'est une réaction de l'Église catholique, parce que d'un côté, il y avait toujours le vœu de pauvreté. Donc toujours la pauvreté, bien que les églises étaient très riches elles-mêmes, mais bon bref, peut-être qu'il y avait une réaction là. Mais Calvin reconnaissait que l'argent était une création de la main de Dieu. Il a également averti, et je cite, très intéressant, « Il n'est pas rare que ceux qui ont de l'abondance ne s'enivrent pas par leur richesse. » Donc il dit oui, c'est pas un mal d'être riche, le problème c'est que si tu es riche, tu peux être enivré par tes richesses. Pas mal le terme, je trouve. Mais il n'était pas contenté de condamner la richesse comme un mal. Il a dit, je cite, « Soit on sert l'argent comme créateur, soit on utilise l'argent pour servir le créateur. » Donc oui, l'argent peut être dangereux, mais il peut aussi être très très bon. Donc, c'est intéressant. Là, on est encore sur le huitième commandement. Écoutez ces versets que vous connaissez peut-être. Proverbe 10:4. « Pauvre est celui qui travaille d'une main négligente, mais la main de l'homme diligent enrichit. Proverbe 13, 11. Les richesses obtenues par la fraude diminuent, mais celui qui les amasse par le travail les augmente. Proverbe 14, 23. Il a du profit dans tout travail, mais les paroles ne mènent qu'à la pauvreté. Et 2 Thessaloniciens 3, 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à Genève, ils appliquaient ce verset. Je répète. 2 Thessaloniciens 3, 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, donc s'il est flemmard, s'il est paresseux, qu'il ne mange pas non plus. Alors à Genève, tu travailles, bien. T'es malade, hôpital. T'es flemmard, au revoir, on le virait. Pas le droit de mendier, pas le droit d'être flemmard. Alors je sais pas comment ils faisaient pour déterminer ça, mais c'était du radical. Ben, la ville de Genève a hyper prospéré. En même temps, on avait instauré à Genève ce qu'on appelle la bourse française. C'était un fonds d'argent conçu pour aider ceux qui étaient tellement dans le besoin. Les Huguenots venaient par milliers à Genève, et comment on faisait pour les aider? Eh bien, ils ont, comment dire, créé cette bourse française, on les triait à l'hôtel de ville, les malades étaient envoyés à l'hôpital, et les veuves et les orphelins, on les aidait, on faisait tout avec cette bourse française. Alors, même les messages, les sermons de Calvin étaient imprimés, on les louait. Avec cet argent, on aidait ces réfugiés. Et cette idée de la bourse française a été exportée dans plein de villes. D'accord? Vraiment pour aider ces gens. Donc, Calvin voyait d'une bonne perception du travail et de l'argent, une perception bien équilibrée. Et voilà. Donc, alors, il y avait un autre truc. Alors, écoutez ça aussi. C'est tout sous ce point 8. Écoutez bien. Genèse 1, regardez. Je sais pas si vous avez vos Bibles avec vous. Genèse 1, 27 dit ceci. Alors, Genèse 1, 27, il est dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, c'est intéressant. Il prend ces versets, d'accord? Et il conclut que l'activité entrepreneuriale est une expression de la créativité que nous avons reçue lorsque nous avons été créés. En fait, il dit, parce que qu'est-ce qu'il dit ici au verset 28? Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc Calvin disait, on était appelé par Dieu pour prendre ce qu'il y a et l'assujettir pour le bien de l'homme. Il dit qu'on a été créé pour créer des choses. Pourquoi? Parce que nous ayant été créés à l'image de Dieu, puisque Dieu nous a créés à son image, ben, l'image de Dieu en moi me fait vouloir créer. Peut-être vous êtes créateur d'entreprise, créateur de peinture, créateur de je sais pas trop quoi, mais vous aimez créer. On aime créer. On aime créer des choses. Pourquoi? Parce qu'on était imprégné par l'image de Dieu qui lui est créateur. Richard Hall affirme que cette notion est une des signatures du calvinisme. La richesse n'est rien d'autre qu'une création providentielle de Dieu dont il faut profiter et qu'il faut partager. Voilà ce qu'il dit. Cite, comme Calvin, comme les humains respirent, ils doivent aussi produire, travailler, concevoir, réparer et créer. Le jardin d'Éden n'était pas un parc à loisirs, disait-il. Écoutez, un incubateur de production humaine. Oh, trop bien, son choix de mots. Et cela avant la chute. Donc, il dit que le jardin d'Éden, avant même la chute de l'homme dans Genèse 3, était un incubateur de production humaine et pas du tout un parc de loisirs. Fait dans les dessins, souvent c'est « Waouh, ouais, trop bien, je sais que ma femme, Ève, Adam, trop bien, tout est génial. » Non, lui dit « Non, 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 c'était pas c'était comme ça. » Mais c'était aussi du travail. Je vais nommer les animaux, etc. Donc, le 8e commandement sur « Tu ne voleras pas » avait beaucoup à dire sur l'importance du travail et de l'industrie. Mais c'est pas fini, regardez. Vous êtes encore avec moi, ça va, là, c'est bon? Ok. 10e commandement, regardez. Voilà. Vraiment intéressant. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni le serviteur, ni la servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, une fois ce commandement est négatif, il nous rappelle que nous ne devons pas convoiter ce qui appartient aux voisins. Maison, femme, serviteur, bœuf, âne. Si ces choses appartiennent à ton voisin, ils appartiennent à ton voisin. Donc, je ne sais pas si, par exemple, là, chez vous, là où vous habitez, votre voisin, il a un bœuf, puis vous le convoitez, ce bœuf. D'accord? Vous avez dit, ah, oh, j'aimerais tellement voir ça, bof. Ben, arrêtez. Faut pas le convoiter. D'accord? Peut-être c'est une poule. Nous, on a un voisin, là. On est en Haute-Savoie, juste à côté de Genève. Depuis une semaine, il avait une poule qui se promène maintenant dans mon jardin. Et la poule a amené une autre poule. Maintenant, il y en a deux. Ils se promènent dans le jardin, comme ça. Alors, j'essaie de savoir ce qu'il faut faire avec ces poules, quoi. Mais je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Oui, parce qu'on parlait de bœuf. D'accord. Alors, je ne convoite pas du tout les poules de mon voisin. Là, je vous dis franchement, c'est pas du tout mon truc des poules. Mais bon, j'aime beaucoup les œufs. Par contre, les œufs, j'aime bien. D'accord. Mais ce commandement nous rappelle simplement qu'il ne faut pas convoiter ce qui est à l'autre. Alors, regardons le côté positif de ce commandement. Si je ne dois pas convoiter ces choses, cela signifie que je suis censé honorer le fait, écoutez bien, que mon voisin possède ces choses et faire tout ce que je peux pour l'aider à protéger ce que lui appartient, son domaine. Alors écoutez, ce que je vais dire, des fois ça passe mal, mais je vais le dire quand même. Ce dixième commandement favorise énormément le droit à la propriété privée. Parce que si je ne dois pas convoiter ta maison, ça veut dire que tu as le droit de posséder une maison. Et si tu ne dois pas convoiter ma maison, j'ai le droit de posséder une maison. Et qui veut dire, oui, mais cette maison elle est plus grande, elle est mieux, elle est plus chère et tout. Non, je ne dois pas convoiter. En fait, je devrais remercier Dieu qu'il t'a permis d'avoir une belle maison comme ça. Et vice-versa. On devrait s'honorer mutuellement, se féliciter. Je ne sais pas si on se félicite, mais pourquoi pas. Mais s'honorer par rapport à cela. Et traiter ta maison comme si tu la mienne, etc. D'accord? On doit vraiment faire cela. Alors, parfait. Pareil pour une femme. Oui, mais c'est normal. Ta femme, c'est ta femme. Ma femme, c'est ma femme. Mais sur les autres points, serviteur, servante, bœuf, âne, aucune autre chose. Quelque part, tu travailles pour gagner de l'argent, pour acheter une maison, pour pouvoir être généreux. En fait, voici l'éthique protestante du travail. C'est très simple. Alors, ben je continue. Regardez voir. C'est intéressant. Parce qu'il y a encore un commandement à voir. Le quatrième commandement. Exode 20, verset 8, il est dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Que ça, c'est assez facile. Un jour, pour le Seigneur, nous souvent c'est le dimanche. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait les autres 6 jours? On travaille. Vous dites « Ouais, non, moi je travaille 5 jours, samedi c'est libre. » Moi je réponds « Non, c'est pas libre. » Samedi, vous bossez comme des malades, vous faites tout ce que vous n'avez pas fait de lundi à vendredi, mais par contre, vous ne faites pas payer. D'accord? Vous ne faites pas payer, mais vous travaillez. Dimanche, vous essayez de vous reposer. Tac, c'est parti, c'est à peu près comme ça que ça marche. D'accord? Mais le quatrième commandement est très clair par rapport à cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle le caractère sacré du travail ordinaire. Avant Calvin, l'Église avait fondamentalement divisé le travail en 2 catégories. Le sacré, le profane. L'appel de Dieu était réservé, disait-il, seul au clergé. Ah, le clergé, c'était le top. Et tout le reste, c'était les autres, les ordinaires. Eh bien, à travers les 10 commandements, une fois de plus, tout a été rebousculé. Selon Calvin, le 4e commandement enseignait clairement la nécessité de se reposer le jour du sabbat, mais le 4e commandement enseigne également son contraire, à savoir la dignité du travail. Et ce commandement, regardez, c'est très intéressant, ce commandement ne fait aucune distinction, écoutez bien, concernant le type de travail effectué. Je me repose un jour, je travaille les autres 6 jours. Est-ce que la Bible nous dit, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ce travail-là, il faut faire ce travail-là? Non. Non. La Bible dit simplement, il faut travailler. Il s'applique à tout type de travail effectué par tous les hommes, sauf s'ils sont immoraux. On est d'accord? Dieu aurait pu créer l'univers en 1 seconde, mais il ne l'a pas fait. Il l'a fait en 6 jours et il se reposait le 7e jour. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a une dignité inhérente dans le travail. Donc, Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé 1 jour. Nous devrions faire pareil. On travaille 6 jours et on se repose 1 jour. Soudain, le travail devient un appel de Dieu. C'est plus une corvée. Tous les métiers sont impliqués dans le 4e commandement. Ce n'est pas un mal de travailler, mais une nécessité pleine de dignité. Oui, la malédiction a rendu le travail difficile, mais le travail en soi est vital et nécessaire pour tout le peuple de Dieu, quelle que soit la nature du travail. C'est intéressant que Calvin a élevé la discipline des vocations licites au rang de vocation céleste. Il dit, mais tu es appelé à ton travail, tu vas pas juste bosser, Tu es appelé à ton travail. C'est un don de Dieu qu'il te donne. C'est une nouvelle conception de la dignité du travail qui a littéralement bouleversé le monde. Il y avait désormais un élément sacré dans la vocation ordinaire. On pouvait désormais, écoutez, on pouvait devenir médecin, avocat, enseignant, entrepreneur, imprimeur, agriculteur, fonctionnaire, marchand ou autre. En fait, c'est égal. C'est égal. Toutes les affaires et le commerce sont élevés et honorés, à moins bien sûr qu'ils soient immoraux. Toute vocation céleste, désormais, était considérée comme bonne, qu'elle soit ecclésiastique ou autre. C'est égal. Mais Calvin va encore plus loin. Il affirmait que puisque Dieu règne partout, puisqu'il est omniprésent, que ses disciples devaient être entrepreneurs dans chaque institution stratégique, y compris, c'est prêt, le gouvernement. Il dit le gouvernement, la société civile, le commerce, les médias, le droit, l'éducation, l'église, les arts, aucune vocation n'est meilleure ou pire que les autres pour nous. C'est venu, vous savez, moi j'entends parfois les chrétiens dire, ouh, faut surtout pas aller en politique, c'est très compliqué, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Non mais, qui va influencer le monde? En fait, c'est intéressant, tout à l'heure on verra la vision de Calvin sur la démocratie. Une des raisons que l'éducation a été décrétée obligatoire pour tous les enfants à Genève, c'était son raisonnement. J'aime la démocratie. Les futurs leaders de démocratie doivent être des hommes droits ou des femmes droits, justes, qui aiment le Seigneur. Donc, formons-les tôt dans la Bible. C'est génial. Alors, pourquoi pas avoir des gens qui gouvernent chrétiens? Pourquoi pas avoir des gens dans les arts chrétiens? On a besoin d'influencer tous ces mondes. Et parfois, dans le monde évangélique, on se dit, ouh, il faut faire attention, il faut se retirer du monde. Alors, on ne doit pas faire partie du monde, mais on doit être dans le monde. Pour influencer le monde, il faut être dedans. Il y a pas 36 solutions. C'est une des raisons que j'ai commencé Calvin Tour aussi. C'est dingue, les opportunités. On a fait pas mal d'ambassades aux Nations Unies, des ambassadeurs. Moi, j'ai donné un tour de la réforme aux ambassadeurs de l'Arabie Saoudite, Israël, le Yémen, Afghanistan. Ils viennent faire un tour de la réforme. Tout ce que je vous ai dit, je leur dis exactement pareil. Mon témoignage, la totale, l'évangile et tout. Mais je me dis, mais c'est génial, le Seigneur nous a donné une opportunité en or de pouvoir annoncer l'évangile. Voilà, parce que on a créé un ministère, une entreprise, et ça nous a permis de faire ça. Alors voilà, qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie pour vous permettre vraiment d'être une lumière pour Christ dans votre travail là-bas? Vous êtes d'accord avec moi, ça va? Ok, bientôt fini là, il y a dans 12 minutes, d'accord? Je vais essayer. Alors qu'est-ce que Calvin aurait dit dans un moment comme ça? Vous voyez, c'est très intéressant, j'ai aucune idée. Encore un tiens 10, 31, on continue, d'accord? Sur le travail. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. De nouveau, alors, Calvin il disait, ok, tu veux fabriquer un couteau suisse, grande valeur, tu le vends cher, pas de problème, d'accord, sois généreux, etc., etc. Mais il dit, le but ultime de ce couteau, c'est quoi? C'est de créer un couteau et faire beaucoup d'argent? Tu peux. Mais le but ultime, encore en Tiens 10, 31, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu dis, ouais, mais ça veut dire quoi? Comment je fais un couteau suisse pour la gloire de Dieu? C'est comme ça que moi je réponds. Si Jésus-Christ, Dieu en chair humaine, rentrait, et je voulais offrir un cadeau à Dieu, je lui offre quoi? La camelote? Non, à Dieu j'offre le meilleur. Donc je fabrique le meilleur couteau possible au monde. Meilleure montre possible. Au fait, l'industrie de l'horlogerie à Genève a été amenée par les Huguenots français. Quel génial ça, non? Ah ouais, top, top. Niveau et qualité. Peut-être nous venons de témoigner la mort de mon Mac. Ça serait un problème, ça, je ne sais pas du tout. Il était, voilà, tac, il est là. Il était mort. Donc la batterie. Ben oui, il est en train de ressusciter. Alléluia, d'accord, ok. Alors, 2 Thessaloniciens 3, 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. De nouveau, ça, on avait déjà vu ça tout à l'heure. Donc alors ça, c'est un petit peu très vite, j'ai brossé le comment Calvin, lui, percevait le travail. Passons maintenant, c'est mon quatrième point que je vous montrais tout à l'heure, Martin Luther et l'éthique protestante du travail, ça c'est intéressant. Lui, c'est 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5, qui dit ceci, ne faites pas en vous... Non, c'est dans Jacques, alors hein, c'est pas du tout ça. 1 Pierre 2, 4 et 5 qui dit quoi? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une seule maison spirituelle et saint sacerdote, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous dites, waouh, quel est le lien avec le travail? Eh bien, lui dit que tous les chrétiens, Luther dit ça, sont dans un état spirituel. Il dit, nous sommes édifiés comme une maison spirituelle pour un saint sacerdoce. Qui? Nous tous qui sommes chrétiens. Si tu es chrétien, tu fais partie de la maison spirituelle pour un saint sacerdoce. Donc, nous avons chacun un statut spirituel, écoutez, égal devant Dieu. Qui veut dire que toutes nos occupations, puisque nous sommes tous égaux devant Dieu, toutes nos occupations ont une valeur égale devant Dieu. Qui veut dire, est-ce que le boulanger est plus spirituel que le maçon? Ou est-ce que le pasteur est plus spirituel que le paysan? Non. Non. Dire que ceux qui sont dans un ministère plein temps sont plus spirituels que le boulanger et le maçon, était, selon Luther, c'est un petit peu comme il le dit, les ruses du diable, un mensonge habile et une invention hypocrite. Non, on est tous égaux. Tous égaux. Luther disait, je cite, les pasteurs, les moines, les nonnes, les papes ne sont pas plus saints que les paysans, les commerçants, les servantes ou les creuseurs de latrines. Donc ceux qui construisaient les toilettes. Dans le royaume spirituel, dans l'égalitarisme divin, les paysans sont égaux au roi. Tous sont des êtres pécheurs qui ont été amenés et rachetés par Jésus-Christ. Mais ceci produit une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il institué le travail pour les gens en premier lieu? Pourquoi est-ce que Dieu, quand il nous a créés, nous a dit « vous devez travailler » Pourquoi? Hein, des fois, on se lève et on se dit « oh, c'est moi, je suis à peut-être un ou deux ans de la retraite là. Oh. » Bien que j'ai pas vraiment envie de ralentir parce que j'aime ce que je fais. Vous voyez, il y a un côté, on se dit, ouais, ça pourrait pas mal la retraite, hein, je sais pas, à 28 ans. C'est pas mal ça, non? Mais non. Parce qu'en fait, on a été créé pour travailler. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a été créé pour, sa réponse, il la trouve dans Marc 12. Vous êtes d'accord avec moi, ça va? On a presque fini, hein, je vais un peu plus vite, là, parce que j'ai encore. Marc 12, 28 à 31. Il dit, un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, et l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que ces deux commandements-là. Nous devons donc aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur. Selon Luther, alors c'est simple, mon travail est un moyen par lequel j'aime et je bénis les gens au nom de Dieu. Mon travail est une manière que j'aime et je bénis même les non-chrétiens. C'est beau ça, non? Il dit... Nous sommes notre travail, c'est le masque de Dieu derrière lequel il veut faire toutes choses. Dans notre travail, c'est une occasion géniale de briller pour Jésus-Christ là où nous sommes. Pensez à la nourriture que nous mangeons. Dieu aurait pu facilement nous donner des fruits et des céréales sans avoir à labourer ou à planter. Mais il le fait pas comme ça. Moi, des fois, je mange de céréales le matin, je me dis, j'aime le lait froid. Je dis, mais t'as voir, moi, j'achète un berlingot, clac, lait froid. Mais qu'est-ce qui me permet d'avoir du lait froid dans mon bol? Ben, il était dans un berlingot, il fallait que quelqu'un conseille le berlingot. Dans un magasin, il fallait que quelqu'un tienne le magasin. Il fallait que quelqu'un mette le lait dans le berlingot quelque part dans une usine. Ah oui, mais il fallait déjà le lait. Dans le lait, il fallait une vache quelque part. Il fallait quelqu'un qui traite la vache. Mais il fallait que la vache grandisse, il fallait qu'elle mange de l'herbe. Il fait une ferme, il y a du fumier, du machin, des trucs et tout ça. Ah ouais, puis aussi le carton. Le carton, il a fallu quelque part faire du papier, il a fallu couper un arbre quelque part. Mais les gens qu'il a fallu pour que j'ai mon lait, pour manger mon céréale, j'aime mes Rice Krispies, wow, trop bon, tu vois. Tu dis, mais c'est incroyable quand même. Et comment est-ce que ces gens, eux, trouvent de la dignité dans leur travail? Ah, je veux boulot, je veux boulot. Non, ils me servent. Merci. Merci tous ces gens qui ont fait tout ce travail pour moi, pour mon bol de céréales. C'est génial. Donc, la paysanne qui traite la vache est-elle moins importante que le pasteur qui prêche le dimanche matin? Non, absolument pas. Lorsque l'agriculteur cultive le blé, lorsque le boulanger le cuit, lorsque le transporteur le transporte, lorsque l'épicier le vend, Dieu n'est pas obligé de procéder ainsi, mais il le fait ainsi. Il aurait simplement pu dire, « Oh, écoute, Dieu, j'aimerais un steak frites salade. » Boum ! Il l'a déjà fait, ça, non ? Avec la manne. Il aurait pu le faire. Avec l'écaille, Jésus avec le pain et les poissons. Il peut le faire, mais il le fait pas comme ça. Non, non. Il veut nous bénir et nous bénir à bénir les autres par notre travail. Quand vous travaillez, quand vous faites la cuisine, quand vous creusez un fossé, quand vous construisez un pont, quand vous écrivez une pièce de théâtre, quand vous gérez un fonds banquier, quand vous êtes capitaine d'un cargo, eh bien, c'est Dieu qui distribue ses dons. Vous savez, moi, un des métiers des gens, je bénis le Seigneur, c'est les capitaines de cargo. Ah, ces gars, ils sont géniaux. Vous aimez, vous, les capitaines de cargo? Vous avez déjà pensé à ces gens-là? Je veux vous dire pourquoi vous les aimez, sans le savoir. Parce que ces capitaines de cargo, vous savez ce qu'ils vous ont apporté? Vos téléphones. Ben ouais. Sans eux, aucun de nous aurait des super téléphones, quoi, franchement. Quand même. Priez pour eux, quoi, franchement. Parce que là, la vie est dure. C'est... Non. Mais vous voyez, c'est intéressant d'y penser comme ça. Tout d'un coup, on réalise que tout le monde a un lien dans le monde. Puis Jésus, au fait. Jésus. Lui qui a pu créer poisson, pain, il était charpentier. Non, il était en train de construire des chaises et des tables. Pourquoi? Parce qu'il y a une dignité dans le travail. Vous voyez, ça, c'est l'éthique protestante du travail. Alors, écoutez, je termine. Ah ouais, est-ce que ça marche? Ah, c'est dommage, j'ai les photos. Il y a un truc. Ah. Là, il y a vraiment un truc. Mon ordinateur n'est pas en train de se recharger. Bon, ben écoutez, ben voilà, il y a eu des effets un peu partout dans le monde. Voilà, prions. je vais essayer de, je sais pas ce qui s'est passé. Alors voilà, écoutez, tout simplement, il y a des photos que j'allais vous montrer. Si vous allez à Genève, il y a plein de trucs à voir. Mais partout, le calvinisme s'est répandu, l'amour pour le marché libre et le capitalisme s'est également répandu. Genève a été complètement bouleversée. Il y a eu 113 imprimeurs, 70 réfugiés aristocrates. Bref, la Suisse était totalement bouleversée, on le voit encore aujourd'hui. L'effet en Europe, si vous voyez le mur des réformateurs, sur ce mur, il y a 8 pays. Il y a l'Allemagne, la Hollande, la France, la Suisse, l'Écosse, l'Angleterre, l'Amérique et la Hongrie. Et là, on explique comment la réforme a changé et transformé ces pays. Plusieurs d'eux, surtout par exemple l'Écosse, l'Amérique, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, ont eu des, mais même la Hollande a eu des transformations économiques incroyables à cause de la réforme. Ça remarche ? Ah ! Ouf ! J'ai encore 2 minutes. Oula, je suis là dans mon truc. À Genève, voilà, en Europe. Je suis en Europe. En Europe, donc il y a eu des grands effets, voilà, d'accord. Ensuite, en Amérique, il y a quand même pas mal d'effets aussi. En Amérique, alors John Dodd, il y a eu des puritains, ils ont dit ça, le grand et révérend Dieu ne méprise aucun métier honnête, aussi aimable soit-il, mais la couronne des bénédictions. Con Myers, il y a un autre qui dit John Baxter, le but du travail est d'obéir à Dieu, et de faire du bien aux autres. William Perkins, il dit Adam, dans son innocence, avait tout à sa disposition, mais Dieu l'a ensuite employé à une vocation. Écoutez, le premier ministre hollandais d'ici, par rapport à l'Amérique, écoutez, dans l'essor, je cite, hein, dans 1901, il écrit ceci, dans l'essor de votre enseignement universitaire, c'est un speech qu'il donnait aux États-Unis, dans l'essor de votre enseignement universitaire, dans le caractère décentralisé de vos gouvernements locaux, dans votre championnat de la liberté et de la parole, et dans votre considération illimitée pour la liberté de conscience, dans tout cela, il est démontrable que vous devez cela au calvinisme et au calvinisme seul. Wow! Donc il dit, l'Amérique aujourd'hui, elle est ce qu'elle est à cause du calvinisme. Il faut le faire hein, quand même. Wow! Et les effets dans le monde, Jean-Sébastien Bach a signé chacune de ses partitions musicales avec Sola Deo Gloria. Rembrandt a glorifié Dieu avec son art. Milton a glorifié Dieu avec ses poésies. Atticus, je ne sais pas comment il s'appelle, a glorifié Dieu avec sa théorie politique. Grotius avec sa réflexion sur le droit international. Adam Smith a glorifié Dieu dans son développement de l'économie. Bref, plein de gens chrétiens qui ont entamé, qui ont eu un effet sur leur monde. D'accord? Et finalement, et je termine avec ceci, la raison fondamentale. Oh, Jean Calvin, il est beau, hein? Vous trouvez pas là? Ah, ben, c'est pas là. La raison fondamentale pour tout ça, pourquoi c'est arrivé? Alors ça, c'est la partie que j'aime dire. On termine avec ça. À cause de la prédication de la parole de Dieu. Alors, si la Bible n'a pas changé le monde, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Allez, on prie. Seigneur, merci de tout cœur pour ce que nous avons vu ce matin, ce que nous avons appris. Et je te prie de bénir nos conversations et surtout le goûter maintenant avant la troisième session. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.